On va commencer la rentrée Baruch Hashem. Alors, on va commencer Bezrat Hashem, le chapitre 3. Chapitre très intéressant. Je ne sais pas si on va le faire en une fois ou en deux fois. On va voir comment ça va avancer. Donc, je fais un rappel rapide de où on en est dans le Tanya. Notre but, c'est d'expliquer, bonsoir, c'est d'expliquer le combat qu'il y a entre les âmes, entre l'âme divine et l'âme animale. En d'autres termes, d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur pour comprendre qui suis-je. Pour répondre à cette question, il faut d'abord définir qui sont les acteurs à l'intérieur. On l'a déjà défini de manière assez sommaire. Dans le chapitre 1, on a défini l'âme animale. Et dans le chapitre 2, on a défini l'âme divine. De manière assez sommaire, mais on l'a déjà fait. D'accord ? Donc on a expliqué que l'âme animale était principalement, comme on a dit, en un mot, on a dit qu'elle était égocentrique. Donc on a tout expliqué longuement les détails dans les détails. Et la semaine dernière et la semaine d'avant, en deux cours, on a expliqué le concept de l'âme divine, que l'âme divine, elle est là au contraire, a toujours, c'est un morceau d'Akadosh Baruch Hu, elle veut savoir quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et comme on a pu expliquer avec plusieurs exemples, bonsoir, que quoi qu'il arrive, il y a un livre à vous, je vais lui demander de vous offrir un livre. C'est le tome 1, voilà. Donc, comme on avait expliqué, que l'âme divine, quoi qu'il arrive, même si c'est l'âme divine d'un rachat, quoi qu'il arrive, son âme divine fait partie du corps, d'accord, du corpus général du Ham Israël, donc du corps général du Ham Israël, et donc un juif fait partie d'Akadosh Baruch Hu. Donc voilà, en gros, on a expliqué qu'en nous, c'est pas un moteur qu'on a, mais c'est deux moteurs. Un moteur, l'âme animale, un moteur, l'âme divine. Maintenant, on va commencer à développer un peu qu'est-ce qu'il y a dans l'âme divine. Et c'est un cours très intéressant, parce que dans ce cours-là, on va développer maintenant le concept des 10 sirotes, qui est un concept très compliqué. Très compliqué, c'est pas très compliqué, mais on va dire, c'est très compliqué, on va pas rentrer dans la complexité qui est dans la Kabbalah, dans le Sefer Yetzirah, parce que c'est la base du monde. Les 10 sphirotes, c'est la base du monde. C'est la manière comment le monde a été créé. On va tout expliquer. D'accord? Donc les 10 sphirotes, c'est la base même du monde. D'accord? Et je veux dire, il y a des dizaines, si c'est des centaines de livres qui ont été écrits que sur ça, sur les 10 sphirotes. Mais nous, ce qu'on va essayer encore une fois, faut pas perdre de vue notre but. Notre but, c'est simplement de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc, au moins de manière sommaire, maintenant qu'on a compris qu'il y a deux âmes, on va essayer d'analyser qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces deux âmes, comment elles sont construites. Et on va comprendre qu'il n'y a pas simplement moi. Dans mon moi à l'intérieur, il y a plusieurs facettes. Il y a mon côté intellectuel, il y a mon côté sentimental, il y a mon côté bon, il y a mon côté méchant, il y a mon côté rigoureux, il y a mon côté qui a envie de s'enorgueillir, il y a mon côté qui a envie de gagner, il y a mon côté humilité. On va développer toutes ces notions-là. Alors justement, on va développer. On va expliquer qu'en vérité, on va arriver à 10 facultés. Ces 10 facultés, on le retrouvera chez toute personne qui existe dans le monde. Ça peut être dans la Kedusha comme dans le mal. On va expliquer pourquoi il y a 10 facultés, pourquoi ce chiffre 10. Et d'où il vient ce chiffre 10 et pourquoi ça a été fractionné comme ça. C'est ce qu'on va essayer de développer. Donc encore une fois, le but, c'est pas de rentrer dans le Sefer Yetzirah, c'est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'une fois qu'on aura compris ce qui se passe à l'intérieur, on saura mieux comment utiliser l'âme divine pour se battre contre l'âme animale. Il faut savoir quels sont les outils, d'accord, avec quoi je peux me battre, avec quoi je peux me disputer, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ok. Donc, Perek Gimel, chapitre 3. Donc dans le Tanya, on est... page 13, ou bien, donc page 13 en bas, ou bien, dans ceux qui ont le livre en français, 69. Dans le cours de la semaine dernière, on a expliqué qu'il y a plusieurs types de neshamot. Par exemple, on a des neshamot comme nefesh, ruach, neshama, il y a plusieurs types de neshamot qui correspondent un peu à chacun de nous. Chacune des neshamot, peu importe qui il soit, ça peut être un grand tzadik, ça peut être un grand rachat, peu importe la personne qu'il soit, Kloula mais Esser Bichinot. À tous les coups, chaque personne a en lui 10 niveaux, 10 facettes. Maintenant, dans chacun de nous. Maintenant, c'est un peu comme les couleurs. D'accord, on va développer c'est quoi ces 10 facettes. C'est un peu comme les couleurs. Ça veut dire qu'après, c'est le dosage de ces 10 facettes qui vont faire la différence entre les uns et les autres. Par exemple, un, il est plutôt bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas rigoureux, mais il est plutôt bon. Un, il est plutôt intelligent. Un, il a pas spécialement d'intelligence, mais sa force est de savoir développer les projets. On va tout développer, tout ça, Bezrat Hashem. On va montrer que chacun de nous a en vérité ces 10 facettes-là. Et c'est obligatoire d'avoir ces 10 facettes parce que sinon on peut pas faire les mitzvot. On peut pas construire sa vie. Pour construire sa vie, on est obligé de partir sur cette base de 10 facettes et qu'on a ces 10 facettes en nous de série. D'accord? Juste deux secondes. Seulement, le dosage de ces différentes facettes, va faire la différence qu'il y a entre les hommes. Vas-y.
Quand tu dis facettes, c'est des qualités?
Alors, ça peut être des qualités, ça peut être des défauts aussi. Pourquoi? C'est une bonne question que tu poses. Parce que là, maintenant, on va parler de l'âme divine. On va développer l'âme divine. Donc là, bien sûr, dans l'âme divine, ces 10 facettes vont être des qualités. Mais après, dans les chapitres suivants, à partir du chapitre 5, on expliquera ces 10 facettes dans l'âme animale. Okay. Si tu veux, c'est 10 modes d'expression. Comme par exemple, je vais donner un exemple pour expliquer ce que je veux dire. La bonté, c'est quoi la bonté? La bonté, c'est aimer quelque chose. Je peux aimer Dieu, je peux aimer une bêtise aussi. C'est la capacité d'aimer. Dieu m'a donné aussi la capacité de réfléchir. Avec ma réflexion, je peux réfléchir à la Torah, je peux réfléchir à une bêtise. C'est les facettes qu'il y a en moi. Donc il faut bien comprendre les facettes qu'il y a en nous et comment ça se passe à l'intérieur. Comment ça se passe à l'intérieur, comme ça, quand on a bien compris ça, on aura compris comment on peut se battre contre le Yetzer. Toute existence dans le monde a ses 10 facettes. Obligatoirement.
Excuse-moi, c'est chaque homme, ça.
Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est les...
L'alcool, ça couvre tout.
Non, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi Non, ça veut rien dire, ça dépend. C'est quoi? Faites du mésonote, faites du... Voilà, vous êtes tout ce qu'il faut, toutes les brachot, comme ça vous êtes tranquille. Ok. Donc... Keneged Esser Sfirot Elyonot. Pourquoi 10 facettes? Pourquoi on a 10 facettes en nous? La réponse est très simple. Nous avons 10 facettes en nous parce que ces 10 facettes correspondent aux 10 Sfirot. Là, je vais m'arrêter un petit peu pour expliquer, au moins de manière sommaire, c'est quoi les 10 Sfirot. C'est écrit dans la Parasha Bereshit que Vaivra Elokim et Adam Betsalmo. Dieu a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu. Betsalem Elokim Baraoto. Dieu a créé l'homme, Betselem Elohim, à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'où on sait que Akadosh Baruch Hu a 10 facettes, parce que comme c'est écrit que Akadosh Baruch Hu nous a créés à son image, donc en regardant comment nous on est construit, on va comprendre comment Dieu a construit le monde. Ça ne veut pas dire, Chas V'Shalom, que Dieu est limité à 10 facettes. Chas V'Shalom, ça ne veut pas dire ça. C'est pas du tout ce qu'on veut dire ici. C'est que quand Dieu a décidé de construire le monde, quand il a décidé de construire le monde, donc de construire ce projet, étant donné qu'on nous dit qu'il a créé l'homme à l'image de la manière comment il a créé le monde, ça veut dire que la même construction, la même structure qu'on a chez l'homme, on retrouve cette même structure chez Akadosh Baruch Hu. Dans la Kabbalah, on parle beaucoup des 10 Sfirot. Sfira en hébreu, ça veut dire quoi? Une Sfira, ça veut dire d'abord une sphère, d'accord? Ça veut dire aussi, ça veut dire une sphère, ça c'est la traduction littérale. Mais Sfira, il y a le mot saphir. Saphir en hébreu, c'est quoi le saphir? C'est comme en français, c'est quoi le saphir? C'est un diamant. C'est un diamant. Ouais. Donc quand on parle de Esser Sfirot, de 10 Sfirot, on parle de 10 choses qui brillent, 10 facettes d'Akadosh Baruch Hu qui brillent. Rappelez-vous, nous ce qu'on veut comprendre maintenant, c'est 10 facettes qu'il y a en nous. C'est ça le but, on perd pas le fil. Mais chez Nishtal, chez nous-mêmes, si en moi j'ai 10 facettes, bonsoir, si en moi j'ai 10 facettes, c'est parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il y avait aussi 10 Sfirot. Et donc de ces 10 Sfirot qu'on va développer, vont découler les 10 facettes que j'ai en moi. D'accord? Donc on y va, on va commencer à développer. Dans ces 10 facettes, en vérité, on va les découper en 2 groupes. Un groupe de 3 et un groupe de 7. Alors, dans les mots, Anech Lakot, Lishtaim. Ils sont divisés en 2. Bonsoir. She'en, Shalosh Imot, Veshevak Fulot. Comme c'est expliqué longuement dans le Sefer Yetzirah, nous avons 3 mamans. Donc c'est quoi une maman? Une maman, c'est une madame qui va avoir des enfants. Et Shevak Fulot, 7 doubles. C'est quoi un double? C'est une personne qui a, d'accord, qui a comme un jumeau de l'autre côté. Ça veut dire comme ça. Dans les 10 facettes qu'on va avoir, en vérité, c'est pas 10 facettes. En vérité, c'est 2 groupes. Dans ces 2 groupes, on aura un groupe de 3, un groupe de 7. Un groupe de 3 qu'on va appeler les 3 mamans, et un autre groupe de 7 qu'on va appeler les 7 enfants, les 7 doubles. On expliquera plus tard pourquoi on les appelle les 7 doubles. Pour vous simplifier les choses comme ça, on se complique pas parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Le premier groupe, quand on a parlé dans le premier groupe, on a parlé des trois mamans. Le premier groupe, c'est le côté intellectuel. Donc d'abord, on va prendre une grande partie de ce chapitre pour expliquer qu'est-ce qui se passe dans le côté intellectuel de l'homme. C'est pas juste je réfléchis. Il y a quelque chose qui se passe dans ma tête. C'est pas juste je réfléchis et c'est tout. Il y a des choses qui se passent. On expliquera qu'en vérité, dans les phases de la réflexion, nous avons 3 phases très importantes. Et si on saute une des 3, on peut faire sauter le projet. Très important. Et d'ailleurs, dans les chapitres suivants, il expliquera que très souvent, ce qui arrive aux hommes, si on saute des étapes, d'accord, on fait sauter le projet. C'est-à-dire, c'est comme si tu fais un business plan et que tu sautes des étapes, d'accord. Tu sautes, par exemple, tu penses pas à l'étape où tu devras aller voir le banquier, tu penses pas à l'étape qu'il y aura peut-être du temps, il y aura peut-être des choses qui marcheront pas, tu vois, tu penses pas à tout ça, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Quand après ça arrive, comme c'était pas prévu, on peut se casser la figure. Donc on peut pas sauter les étapes. On est obligé de passer par toutes les étapes. On y va. On va développer. Donc nous avons, je reprends, ces 10 sphirotes, 10 facettes, ces 10 facettes, ces 10 traits de caractère, enfin 10 facettes qu'il y a en nous. On va les découper déjà en deux. 3 mamans, ça c'est le côté intellectuel. Et 7 doubles, ça veut dire 7 aspects sentimental. Là, on va commencer à rentrer dans les détails. Pirouche, ça veut dire. Là, il donne juste les titres, parce qu'après, on va prendre mida par mida, facette par facette, on va développer. Mais déjà, au moins, on va donner les noms. On va commencer par le côté intellectuel. Dans le côté intellectuel, nous avons 3 phases. Chochma, Bina, Da'at, initiale de Chabad. D'accord ? Donc, mais à la fin de ce cours, vous comprendrez pourquoi c'est les initiales de Chabad. Sans aucune prétention, vous comprendrez pourquoi c'est les initiales de Chabad, parce que vous allez comprendre. Je peux pas vous donner. On va comprendre. Je peux pas vous donner la fin du film avant au début. D'accord. Hmm ah non, c'est spoiler. On peut pas vous. Je peux pas vous donner la. Donc, nous avons. D'abord, dans le côté intellectuel, nous avons 3 phases. Chochma, Bina, Da'at. Donc, Chochma, Bina, Da'at, si je vais traduire ça, je ne vais pas vous donner la traduction littérale, parce que la traduction littérale ne nous aidera pas. On va donner une traduction qui explique un peu le sens. Chochma, on va traduire ça comme le flash de l'idée. Bina, on va traduire ça par le développement de l'idée. Et Da'at, on va traduire ça par l'attachement à l'idée. Quand tu t'attaches, tu te sens que tu t'es attaché à l'idée. Toutes ces notions-là, à la fin de ce cours, vous saurez de quoi je parle. Là, je vous donne juste les noms. Donc ça, c'est le côté intellectuel. Je sais, parce qu'il y a les traductions littérales, mais là, je vous ai pas donné la traduction littérale. Traduction littérale, Chochma, c'est l'intelligence, Bina, c'est la sagesse, et Da'at, c'est la connaissance. Je sais. Je reviendrai tout de suite après, vous inquiétez pas, dans quelques lignes, on va revenir. Donc vous inquiétez pas, vous passerez pas à côté. J'ai dit Chochma, c'est le flash de l'idée, Bina, c'est le développement, et Da'at, c'est l'attachement. Attachement. Ça, il expliquera à la fin de ce chapitre. Tout ça, c'est dans le chapitre 3. On n'aura pas besoin d'aller chercher ailleurs. Dans le chapitre 3, vous aurez toutes les réponses à vos questions sur ça. Donc, dans l'aspect intellectuel, nous avons trois phases. Chochma, Bina, Da'at, initiale de Chabad. Ensuite, Veshivat ima binyan. Dans l'aspect sentimental, nous avons 7 midot. 7 traits de caractère, 7 facettes. Chesed, Gvura, Tiferet. Donc nous avons Chesed, Gvura, Tiferet. Chesed, la bonté. Gvura, la rigueur. Tiferet, l'harmonie. Je ne sais pas si vous avez suivi ma main. Je fais exprès de faire comme ça. Chesed, la bonté. Gvura, Tiferet. D'accord, pardon. Chesed, la bonté. Gvura, la rigueur. Tiferet, l'harmonie. C'est comme un ségol. Pourquoi il dit etc. Il y en a 7. Parce qu'en vérité, ce qu'on expliquera dans la suite, non. C'est un triangle, mais 1, 2, 3. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a le côté droit, le côté gauche, et la résultante des deux, l'harmonie entre les deux va créer un nouveau résultat qui s'appelle le troisième, qui s'appelle l'enfant. C'est comme on a le père, la mère, ils vont donner naissance à un enfant. D'accord? Pourquoi il dit ici, etc.? Parce qu'en vérité, on va expliquer que bien que concrètement, dans la pratique, dans ce que le Zohar va expliquer, il y a 7 traits de caractère, mais en vérité, c'est pas 7 qu'il y a, il y en a que 3, et de ces 3 vont découler les autres. D'accord? Ça veut dire que de manière générale, il y a la tendance à droite, la tendance à gauche, et la tendance qui rassemble. Après, on aura des variantes. D'accord? Donc déjà, avec ce qu'on a expliqué déjà maintenant, on a déjà au moins le thème. C'est qu'aujourd'hui, on va développer 3 phases dans la réflexion, et on va développer 3 phases dans les sentiments. Et que de ces 3 phases-là, on va sortir plusieurs facettes, 7 sentiments. Mais 3 phases dans les sentiments. Alors on y va. Mais d'abord, il nous faut un peu de l'Echaïm, parce que là, ça risque d'être un peu compliqué. Oui, avec un Echaïm, ça passe mieux. Est-ce que tout le monde a un Tania? Chaïm, ça va, Yonel? Au revoir. Là, je vais faire. Allez. Bah, on va chez Hakol Yamid Varon.
Amen. C'est ça quoi, Marcel?
Bonjour. Avena, il est pas là, ton papa? Il arrive? Tu le remplaces?
Tu as ça, moi,
un peu. Ah, bonne nouvelle. Est-ce que tout le monde est servi? C'est bon, on continue? Ok. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la structure qu'on est en train d'expliquer ici, Là, maintenant, on va l'expliquer en ce qui concerne l'âme divine. Comment on retrouve cette structure dans l'âme divine. Mais cette structure, je sais pas qui a posé, je crois que c'est toi qui a posé la question. Est-ce qu'on retrouve ça chez les goyim aussi? Je sais plus qui c'est qui a posé. D'accord? Donc, cette structure, on la retrouve chez tous les êtres qui existent dans le monde. Seulement là, on va donner un exemple dans l'âme divine, comment on retrouve ça dans le côté positif. Mais après, on expliquera qu'on retrouve ça chez tout le monde. Et pas seulement chez tout le monde, dans n'importe quel projet dans lequel on se lance, il y aura toujours ces 10 étapes. Toujours, obligatoirement, on passe par ces 10 étapes. Et s'il manque une des 10 étapes, forcément, il y aura un problème. Forcément, il y aura un problème. D'accord? Donc, on va commencer à développer progressivement. Donc, Vekar ben Nefesh Adam. Si Akadosh Baruch, quand il a créé le monde, il a utilisé ces 10 facettes, de la même manière, l'âme de l'homme qui découle d'Akadosh Baruch Hu, elle a aussi, donc, c'est deux grands groupes. Un groupe, le groupe du Sechel, le groupe du développement intellectuel, ou Midot. Deuxième groupe, c'est quoi? C'est les traits de caractère, les sentiments. On va commencer par le côté intellectuel. Et vous allez comprendre pourquoi le côté intellectuel est le plus important. Parce qu'en vérité, une des grandes approches de l'Admor HaZaken, et c'est un des grands chidushim, une grande nouveauté de la Chassidut, c'est que c'est le cerveau qui doit générer les sentiments. Et c'est pas les sentiments qui doivent faire appel au cerveau. Vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire. Comment ça se passe en général dans la vie de tous les jours aujourd'hui? Mon cœur me dit, je veux quelque chose. Il me dit, je veux ça. Donc il envoie un signal au cerveau. Il dit, écoute, je veux ça, débrouille-toi, il faut que je l'aie. Donc le cerveau se met à réfléchir, comment je vais te donner ce que tu veux? C'est comme ça que ça se passe. J'ai une pulsion, je veux quelque chose. Il envoie un signal au cerveau, le cerveau il réfléchit. D'accord? Soit il rentre dans des idées, dans des pensées, etc. Soit il se dit, il réfléchit, comment je vais l'avoir? Je vais l'obtenir. Donc qui c'est qui a dicté à qui le message? C'est le cœur qui a dicté au cerveau. C'est très mauvais ça. C'est très mauvais, d'accord? Parce que ça veut dire que c'est quoi le rôle du cerveau? Le rôle du cerveau, c'est le patron. C'est lui qui doit décider. Il n'est pas là pour suivre les ordres de quelqu'un d'autre. Il est là pour donner des ordres. Ce qu'il va expliquer aujourd'hui. Deux secondes. On va bien développer ça parce que c'est très 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 important. Et vous n'allez pas vous suffire de ce cours. Bezrat Hashem, ça reviendra dans tout le Tanya, cette notion-là. La notion du cerveau qui domine le cœur. Dans la Chassidut, on explique que c'est exactement le contraire.
C'est quoi? C'est la raison, alors?
C'est le cerveau d'abord qui doit bien comprendre la chose. Et quand tu as bien compris la chose, automatiquement, tu t'attaches avec la chose jusqu'à que ça va générer un sentiment. Et on aura un exemple aujourd'hui. Il va nous donner un exemple concret. Comment on peut retrouver ça dans la Torah? Comment le cerveau peut générer un sentiment? Et là, automatiquement, le sentiment est maîtrisé. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple. Regardez. C'est comme par exemple, dans le monde religieux, on sort en chidour avec une fille. D'accord? Quand on sort en chidour avec une fille, il n'y a pas le cœur. Au début, il n'y a pas le cœur. Au début, il n'y a que le cerveau qui doit réfléchir de manière logique. Est-ce que cette fille, excusez-moi, je vais être un peu clair, est-ce que cette fille est faite pour moi, oui ou non? Est-ce qu'on correspond, oui ou non? Avant même de voir, est-ce qu'elle m'attire, est-ce que je me sens bien avec elle? Ça, c'est en deuxième phase. D'abord, en première phase, est-ce qu'elle me correspond, est-ce que je me sens faire ma vie avec elle? Après, une fois que tu penses que dans le cerveau ça passe, une fois que tu trouves que dans le cerveau ça passe, là tu vas essayer d'avancer un peu et de voir est-ce que ton cœur aussi suit. Et donc là, automatiquement, si dans la première phase ça a bloqué, ben dans ce cas-là, t'arrêtes tout de suite et y a pas de pot cassé. Mais quand c'est le contraire, quand tu démarres avec une fille parce que t'es attiré par elle, sans te poser la question est-ce que je veux vivre avec elle, on avance, et après un moment, tu dis bon, il faut se marier. Tu dis mais attends, il faut se marier, attends, hé, je veux pas rester avec elle toute la vie, moi, et doucement. Mais c'est trop tard. Parce que le cœur a déjà dicté au cerveau, tu dois te marier avec elle. Et le cerveau, maintenant, n'est pas là pour réfléchir, est-ce que je vais me marier avec elle? Il est là pour réfléchir, comment je vais me marier avec elle? Donc c'est pas bon. Bon, si vous êtes dans ce cas, ben c'est trop tard. Mais...
Ah, mais bien sûr. Pourquoi je suis pas venu avant?
Mais des fois, quelqu'un t'attire par...
Alors, il y a une question, c'est une question, oui, tout à l'heure, oui.
Si le cœur, il envoie une pulsion au cerveau.
Oui.
Ok, c'est le cœur qui envoie la pulsion, mais le cerveau, justement, il est là pour choisir oui ou non.
J'ai compris.
Donc, pourquoi ça dérange que le cœur, il envoie?
C'est pas un problème, le cœur doit envoyer des pulsions au cerveau. C'est son rôle. Mais la question est, qui c'est qui dicte à qui? Le rôle du cœur, c'est d'être attiré, c'est normal. Le fait d'être attiré par des bêtises, c'est tout à fait normal. Dieu nous a créé comme ça. Seulement la question est, qui est le patron? Tu comprends? Quand c'est le cerveau d'abord qui vit bien, quand c'est le cœur, pardon, qui vit bien la chose et qu'après il envoie un signal au cerveau, bien sûr le cerveau est perdu. D'accord? Donc il faut bien qu'on comprenne. Vous me suivez? Serge, ça va? Page, dans celui-là, j'ai pas...
70.
Oui. Il y avait des questions. Posez toutes les questions comme ça, Bezrat Hashem. Si vous avez des questions, posez-les maintenant. Comme ça, Bezrat Hashem, dans le développement du cours, j'essaierai d'y répondre.
La façon dont tu as présenté la chose, tu as dit, si tu sauras généralement sentir, c'est plus proche du cœur que du cerveau.
100%. 100%. 100%. Alors.
Alors, tout à l'heure, quand il a voulu exprimer qu'il fallait que le cerveau prenne le dessus sur le cœur, il a dit, si tu sens que tu peux être avec cette fille, puisque je reprends l'exemple, mais tu as fait appel à un sentiment.
Donc, on touche à un... Dan, tu poses une très bonne question. Je vais formuler ta question un peu différemment. Est-ce qu'il y a des émotions dans le cerveau? Non, mais j'ai pris ta question, je l'ai présentée d'un autre angle.
Enfin, pour ma part, je pense.
Je te pose la question, Dan, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que dans le cerveau il y a des émotions ou les émotions sont que dans le cœur? Est-ce qu'on peut avoir une émotion intellectuelle?
Tu as dit, qu'est-ce que tu en penses? Donc forcément, tu fais appel à mon cerveau. Et quand tu dis, qu'est-ce que tu sens? Tu fais
d'accord, bah, je répète la question. Est-ce qu'on peut être impressionné de quelque chose intellectuellement sans rien ressentir? On va voir, on va développer. Je pose une question. Vas-y.
La différence entre le cœur et le cerveau, c'est, en fait, c'est avec le cerveau ou le cœur, hein.
Il y a une grande différence. C'est que le cœur, son rôle, c'est d'être attiré vers quelque chose. De sentir, est-ce que je veux aller vers ça ou je veux pas aller vers ça?
C'est pas le cerveau, en fait.
Le rôle du... Le cœur, c'est de sentir, est-ce que je sens la chose ou je la sens pas? C'est binaire, ou oui ou non. Ça, c'est le cœur. Le cerveau, son rôle... c'est de calculer et de décider. Comme on a expliqué pour ceux qui étaient là au cours de vendredi soir, on a expliqué que un des commentaires du rabbi, il dit comment ça se fait que dans les téfilines de la tête, c'est fractionné en 4 parties. Alors que les téfilines du bras, il y a une seule partie. Il y a un seul morceau. Il dit, c'est très simple. Il dit parce que dans le cœur, c'est binaire. Soit tu sens, soit tu ne sens pas. Il n'y a pas, je sens ça, mais pas ça. Soit tu accroches, soit tu accroches pas. Mais dans la tête, tu es capable de fractionner. Tu dis, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça, le cerveau est capable de fractionner. C'est l'analyse. Donc chacun a un rôle différent. Le rôle du cerveau, c'est d'analyser et de décider. Le rôle du cœur, c'est de sentir les choses, d'être attiré, de pas être attiré, d'avoir une répulsion, de sentir qu'on est attiré vers quelque chose. C'est son rôle. Mais on va développer tout ça. Parce que c'est une bonne question ce que tu poses, Serge. Très bonne question. Parce que dans le cœur lui-même, on verra qu'il y a plusieurs facettes. Plusieurs facettes dans les différents sentiments qu'on va avoir. Allez-y.
Tu dis quand il y a un plaisir intellectuel.
J'ai pas parlé de plaisir encore. J'ai parlé d'émotion. C'est une très bonne question ce que tu poses. Très bonne question. Est-ce que quand il y a un plaisir, il est où le plaisir?
Est-ce qu'il est au niveau du cœur ou du cerveau?
Ni l'un ni l'autre. Enfin bon, je rentrerai pas dedans. Non, ni l'un ni l'autre. Le plaisir, c'est tout le corps entier qui est pris par le plaisir. Comme la volonté. Mais ça, je rentre pas dedans. On n'a pas un cours de philo là.
Okay, mais on a le sentiment que c'est localisé.
C'est faux. Non. Le plaisir n'est pas localisé.
Certainement. Mais on a le sentiment que c'est localisé.
Ok, si vous voulez bien, on va essayer de rester concentré sur le cours. Juste des questions sur ce qu'on a expliqué, hein, sans aller ailleurs. Et j'essaierai d'y répondre dans le cours.
Le cerveau a un rôle de structuration, mais aussi de filtre. Tout se passe dans l'insomnie qui va décider si c'est bien ou si c'est pas bien et comment réaliser ou pas la chose.
Très bien, donc ça veut dire que ça doit démarrer du cerveau.
Ah oui.
Très bien,
c'est
ok.
C'est évident que ça démarre de là. Hein.
Malheureusement, dans la réalité, c'est pas comme ça. Non.
La structure, je dirais, à la limite, elle est pyramidale. C'est toujours au sommet.
Je vais vous expliquer pourquoi ça marche pas comme ça. Je rentre dans un magasin, je vois un produit, je veux l'acheter, le produit me plaît. Donc j'ai commencé par le cœur. Le cœur envoie. D'accord, non, mais je vais dire, j'ai commencé. C'est le cœur qui m'a dit, je le veux ce truc-là.
Non.
Attendez, écoutez-moi deux secondes. Le cœur envoie une pulsion au cerveau. Il lui dit, écoute, je le veux, débrouille-toi pour l'avoir. Donc le cerveau va se mettre à réfléchir, comment on fait pour l'avoir? Il va pas commencer à réfléchir, est-ce que j'en ai besoin ou j'en ai pas besoin? Parce que sinon, avant de rentrer au magasin, j'aurais dû savoir que j'ai besoin de ce produit. Mais le commercial, il s'est arrangé pour que quand tu rentres au magasin, il va te faire acheter un produit que tu voulais pas acheter. Donc ton cerveau n'a pas besoin de ce produit. Il a créé le besoin, il a parlé à ton cœur. On est d'accord, monsieur les commerciaux? Un commercial, il part à ton cœur, il parle pas à ton cerveau.
Non, mais c'est comme les envies. L'achat d'impulsion. Tu peux avoir l'approche où on va te donner des pulsions. Ces pulsions vont générer des stimulus, donc des motivations qui vont te soit t'amener à acheter le produit, que tu voyais ou pas, soit tu l'achètes pas. Et là, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est justement le fait que...
Tu vas réfléchir. On va développer ça, juste après. C'est mon point. Ok. Il y a d'autres questions? On continue? Ok, alors Rabotin, on continue. Non, c'est un bon point, ce que vous dites. On va développer, on va aller dans cette direction plus tard. Juste après, là, dans 10 lignes. Donc, Vekar Benefesh Adam. Il en est de même, Benefesh Adam. Donc, il en est de même dans l'âme de l'homme. Shenechleket Lishtaim. Qui est, je reprends, Shenechleket Lishtaim, qui est séparé en deux. Sechel ou Midot. Deux groupes. Le groupe intellectuel, le groupe sentimental, les Midot. Asechel Kolel Chochma Bina Vadaat. Dans le cerveau, dans le côté intellectuel, nous avons trois phases qu'on va développer. Chochma bina da'at, comme on l'a traduit, c'est le flash, donc l'idée, le développement de l'idée et l'attachement à l'idée. On va développer tout de suite. Ve'amidot, et les sentiments, c'est quoi? Il y en a sept, mais en vérité, c'est pas sept, c'est trois grandes bases qui sont l'amour, la crainte et ce qu'il y a entre les deux. Ça veut dire le côté droit, le côté gauche et ce qu'il y a entre les deux. Maintenant, on va parler dans la Kedusha. Comment on retrouve ça? Il explique. Ahavat Hashem, upachado ve'irato, ou les pharaos. Si on parlait par exemple maintenant de l'âme divine, on va essayer de retrouver tout ce qu'on a expliqué maintenant dans l'âme divine. Comment on retrouve tout ça? Il dit très simple. Il dit regarde. Par exemple, quand on a dit qu'il y a un côté droit, un côté gauche et le côté du milieu. L'âme divine, c'est quoi son rôle? C'est de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Quand tu t'approches d'Akadosh Baruch Hu, il y a plusieurs manières. Tu peux avoir le côté amour, j'aime Akadosh Baruch Hu. Donc qui dit j'aime, c'est comme la bonté, c'est-à-dire j'ai envie de m'approcher de lui. Et tu peux avoir la crainte. C'est quoi la crainte? La crainte, c'est-à-dire j'ai peur, donc je m'éloigne. Donc, la bonté, je m'approche, je veux m'approcher de la personne. La crainte, je m'éloigne.
Donc, c'est un dosage.
D'accord? Non, deux secondes, j'y arrive. Donc, on a Ahava Veira, l'amour et la crainte. L'amour, c'est le côté Chesed. La crainte, c'est le côté Gvura. Maintenant, là, l'Admor HaZaken va bien développer ce sujet-là pour qu'on comprenne bien. Il va nous expliquer comment le cerveau est capable de générer l'amour et la crainte. C'est pas inné. Comment tu peux aimer et craindre Akadosh Baruch Hu? Un produit, je peux l'aimer et le craindre parce que je le vois, je le sens, je le touche. D'accord? Il y a un feedback. Mais à Kadosh Baruch Hu.
Et tu ferais comment quand tu manges trop un truc?
C'est le dosage. On va expliquer tout de suite. Comment tu peux générer un sentiment? Comment tu peux générer un sentiment d'amour envers Kadosh Baruch Hu? Quand tu dis j'aime Dieu, est-ce que c'est pas l'autosuggestion?
Bien sûr.
D'accord? C'est une question sérieuse que je pose. Il va parler de ça à la fin de ce chapitre. Il va dire que très souvent, on croit qu'on a des sentiments. Zéro. C'est l'autosuggestion. La preuve, c'est que 5 minutes plus tard, il n'y a plus rien. Un sentiment, c'est de laisser des traces. Donc, la question qu'on va se poser, comment on va générer un sentiment durable? Pour générer un sentiment durable, on est obligé de passer par le cerveau, qui va comprendre pourquoi je dois aimer la chose.
Donc, tu vas le créer.
Et donc, je vais créer un sentiment. Vous êtes prêts? Vous me suivez? On va développer. Alors, vechorma bina vadaat nikriu imot ou mekor la midot qui a midot en toldot chorma bina vadaat. Voilà, donc ça c'est la fin de la première partie. Là, avec ça on finit la première partie de ce chapitre-là. C'est juste, là il donne juste les têtes de chapitre pour expliquer où on va. Donc, on a expliqué tout à l'heure que les trois phases intellectuelles sont appelées imot, les mamans. Pourquoi sont appelées les mamans? Parce qu'une maman va avoir des enfants. C'est qui les enfants? C'est les sentiments qui vont être générés par ça. Donc nous avons deux groupes. Le côté intellectuel qui est composé de trois phases qu'on va développer tout de suite. Le côté sentimental qui est composé de sept phases. Mais en vérité, il n'y a que trois phases qui sont le côté droit, le côté gauche et le milieu. D'accord? Et le côté intellectuel est appelé la maman du côté sentimental puisque l'intellect va générer des sentiments. Alors là, avec tout ce qu'on a expliqué, il nous faut un exemple. Il nous faut un exemple concret pour comprendre de quoi il parle ici, parce que pour l'instant, je vous cache pas que moi aussi quand je l'étudiais la première fois, à la yeshiva, à l'âge de 13 ans, j'avais l'impression que le prof, il avait pas préparé son cours.
Alors. Il les précise pas les...
Et là, il va donner un exemple concret. Je sais qu'il a pas précisé, tout de suite. Là, il va donner un exemple concret. Ou biur ha'inyan. Explication du sujet. Là, il a fait que ramener un petit peu des bribes, Zohar, Sefer Yetzirah, etc. Tout ce qu'il, là, pour l'instant, il a rien rajouté, là, de Admor HaZaken. Il a juste donné des bribes qui expliquent, voilà les faits. Que l'intellect est la maman des sentiments. Il y a trois phases dans l'intellect et sept facettes dans les sentiments. On va donner un exemple maintenant. Ubi Urayinan. Qui naît à Sechel Shebenefesh Maskelet. On va essayer d'analyser, on va oublier maintenant les sentiments. On va se focaliser sur le cerveau. Quand j'ai une idée. Alors, imaginons, je suis bloqué sur un sujet. Je suis bloqué longtemps sur un sujet. Je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Je reste bloqué dessus pendant une demi-heure. Je vois pas de quoi ça parle, j'arrive pas à comprendre, je suis bloqué sur quelque chose. À un moment, j'ai une idée. D'où elle vient, cette idée? J'écoute vos réponses. Non. D'où elle vient, cette idée? Du cerveau?
Oui, du cerveau.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette idée? C'est quoi, cette idée? Définis-moi une idée. C'est quoi, une idée?
C'est un concept.
Une réflexion, là.
Qu'est-ce que vous avez comme sentiment quand vous avez une idée?
Ah, t'es content.
Pourquoi t'es content? C'est très bon point, excusez. Pourquoi t'es content? Parce que tu sens que tu étais dans l'obscurité. Et tout d'un coup, qu'est-ce que tu sens? Tu sens une lumière. Tu sens qu'il y a comme un phare qui s'est mis sur quelque chose et que tout d'un coup, c'est clair.
T'es fier de toi aussi.
Deux secondes. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des idées? Non, des idées. Une minute plus tard, tu oublies l'idée. Tu dis, mince, quelle était l'idée? Ça nous arrive à tous. D'accord? Pourquoi elle est partie, l'idée? Parce qu'elle n'a pas été développée. D'accord? Donc, nous avons deux phases. Là, déjà, on a deux phases. Deux phases très importantes. Première phase, c'est quoi? C'est l'idée. Ça veut dire avoir le flash. Et il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui ont plein d'idées, mais qui ne savent pas les développer. D'un autre côté, vous avez des gens, ils ont eu une idée dans leur vie, mais ils ont su la développer, ils sont milliardaires. D'accord, il y a les gens qui ont des idées, il y a des gens qui savent les développer, chacun son rôle. Donc il y a des gens qui ont Chorma. C'est quoi Chorma? Il va définir Chorma, c'est quoi? Chorma, c'est un flash, c'est une puissance, tu sens comme ça, comme un flash qui arrive, qui t'éblouit. Mais si tu prends pas le temps tout de suite de dire attends, qu'est-ce que je viens de voir là? Et tout de suite d'essayer de le mettre concrètement pour expliquer comment ça solutionne le problème, tu peux l'oublier. Et après tu dis, mais mince, mais comment ça solutionne le problème? J'ai oublié comment ça solutionne le problème. Tu dis, mais ça répond pas au problème. Et pourtant, quand t'as eu l'idée, t'avais l'impression que ça répondait et ça éclairait le problème. C'était fluide. On a expliqué une fois dans un cours, ça fait quelque temps, que les hommes sont très forts pour avoir des idées. Et les femmes sont très forts pour le développement. On voit que très souvent, un homme, il a une idée, et quand il raconte à sa femme, elle commence à dire, ah, mais il y a un problème ici. Un problème que l'homme n'a pas vu. Parce que c'est pas son rôle. L'homme, son rôle, c'est quoi? C'est d'avoir l'idée, d'avoir le flash. Le rôle de la maman, c'est quoi? C'est le développement. Bina. Le développement. Développement, prendre un point et le développer. Vous vous rappelez ce qu'on a expliqué dans, il y a deux cours? Dans la création d'un enfant, quand on va créer un enfant. Qu'est-ce qu'il donne, le père? Une goutte. Une goutte qui aurait pu partir. Une goutte, c'est rien, ça aurait pu partir comme ça. D'accord? Et la mère dit, attends, donne-moi ces gouttes. Elle prend ça, et hop, elle te sort un bébé. C'est la même chose dans une idée. C'est-à-dire, des fois, t'as une idée, et t'as dit, hop, garde l'idée, attention, bouge pas. Il te prend l'idée, il te fait un bébé. Tu dis, waouh, je savais pas que j'étais tellement intelligent. C'est comme le père, il va dire, mais attends, je savais pas que moi, une goutte, ça sort un bébé. Le père, la mère, Chorma, Bina. Donc nous avons déjà ici deux phases qui sont très importantes. Bien évidemment, la première phase est très importante, parce que s'il n'y a pas d'idée, il n'y a rien à développer. Mais la deuxième phase est aussi très importante. Parce que si on prend pas le temps de développer, et directement, je crois ça, et j'ai trouvé, c'est bon, j'avance, tu te casses la figure. Il faut prendre le temps de développer et de comprendre pourquoi l'idée solutionne le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous arrive à tous dans la vie, des fois, d'être devant un problème. D'être bloqué devant quelque chose. Et à un moment, tu peux être sous la douche, ou tu peux être en train de conduire, et tout d'un coup, pac, t'as un flash comme ça. Que tu maîtrises même pas, tu sais même pas d'où il vient. Tac, t'as un flash, comme tu dis, pac, j'ai trouvé l'idée. Tout de suite. Faut commencer à réfléchir comment l'idée répond à mon problème. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu rentres chez toi à la maison, tu te rappelles que t'avais eu un flash, tu te rappelles de manière floue, mais tu n'arrives pas à retrouver la lumière qu'il y avait avant, tu n'arrives pas à retrouver l'énergie qu'il y avait avant. Donc nous avons ici deux phases. Chorma, Bina. Deux phases très importantes. Alors, on va dire ça maintenant dans les mots, après on va passer à la troisième phase. Kihine, Ubi Urainian. Donc Ubi Urainian, on est... Alors, Kihine, donc je suis en haut de la page 14, dans le livre en français, je sais pas où on est.
Ah, moi non plus.
Page 71.
Ubiur Ainyan Kihine. Voilà, exactement, 71 en bas. Alors, tout ce que je vous dis, certainement, ça doit être écrit dans le français ici, donc n'hésitez pas après à réviser à la maison. Franchement, ça vaut le détour. Ubiur Ainyan Kihine, Asechel Shbenefesh Amaskelet, le Sechel, la force de réfléchir qui se trouve dans notre âme, Shehu Amaskil Koldava. Donc cette capacité de trouver des idées, d'innover, cette capacité d'innover, de trouver quelque chose de nouveau, de réfléchir. Nikra Beshem Chorma. Ça c'est ce qu'on appelle Chorma. Chorma c'est l'intelligence, la vivacité d'esprit, le fait que tu trouves des idées, le fait que tu trouves des choses nouvelles. Que c'est quoi quelqu'un d'intelligent? C'est quelqu'un qui arrive, quand on est devant une impasse, il a cette capacité d'arriver à voir la chose de manière différente et automatiquement ça solutionne le problème. Ça arrive très souvent quand on étudie la Gemara. On pose une question au sage. D'accord? Et nous, pour nous, quand on est devant la question, on a l'impression qu'on est devant un mur. Et le Chachamim, tu dis, attends. On va prendre le problème, on va le regarder dans notre angle. Et là, tout d'un coup, quand on le regarde dans notre angle, tu dis, ah oui, mais c'est vrai, mais là, ça éclaire tout. Ça, c'est Chorma. C'est la capacité d'innover, de voir les choses d'une manière différente. Les hommes sont très forts pour ça. Très, très forts pour ça. Donc ça, c'est Chorma. Pourquoi Chorma? Deux secondes. Pourquoi Chorma? On va juste finir d'abord le développement, quelques lignes, après les questions. Pourquoi Chorma? Chorma, si on décompose ce mot en deux, ça nous donne Koach Ma. C'est quoi Koach Ma? Koach, c'est une force. Mais Ma. Ma, en hébreu, ça veut dire quoi? C'est quoi? Ça veut dire quoi, c'est quoi? Ça veut dire qu'en vérité, c'est une force, mais en vérité, tu peux pas l'attraper encore. Tu peux pas dire, j'ai l'idée, j'ai le projet. Il faut passer, toute personne qui a déjà eu une idée, qui a déjà développé un business plan, il vous dira que l'idée, tu peux l'avoir très facilement, mais après, pour développer le business plan, le mettre dans les détails, c'est très très long. Et tant que t'as pas fait ça, ma en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien. T'as une idée, mais ça vaut rien des idées. D'accord? Une idée, c'est pas avec ça qu'on avance. C'est quand on va développer l'idée. Donc, Chorma, on découpe en deux, ça nous donne Koach Ma. La force du Ma. Koach Ma, d'après d'autres commentaires, ça veut dire aussi la force du questionnement. La force de savoir remettre en question. Quand tu es devant un problème et que tu es devant un mur, il y a une force de savoir te remettre en question et de savoir te dire peut-être que j'ai mal pris le problème. Peut-être qu'il faut innover. Peut-être qu'il faut regarder le problème différemment. Et là, à un moment, tu as une lumière qui dit hop, si on prend le problème par ici, on va trouver la solution. Mais c'est pas suffisant. Après, il faut développer, il faut que le cerveau, il développe le projet. Alors, dans les mots, il continue. Ukshe motzi koro el apoel. J'arrive, hein. Enfin, quelqu'un a pris les questions. Ukshe motzi koro el apoel. Dès qu'on va faire sortir cette énergie, cette force, cette idée, el apoel, dans le concret, c'est-à-dire qu'on va essayer de la développer dans l'idée, dans les détails. Shemit bonen besirlo, qui va réfléchir dans son cerveau. Là, pour l'instant, on n'est pas dans les sentiments, on n'est que dans le cerveau. Lehavin dava. Donc, lehavin, c'est la même racine que bina. Pour bien comprendre la chose, l'ashuro ou les omko. L'ashuro ou les omko, ça veut dire en profondeur et aller jusqu'au fond de l'horizon. C'est-à-dire pour bien maîtriser le sujet. Mitor ezedva chorma amuskal besirlo. Donc, quand on va essayer, on se base sur une petite idée que j'ai eue. Je vais essayer de la développer. Qu'est-ce qui se passe? Là, à ce moment-là, Nikra Bina. À ce moment-là, ça s'appelle Bina. C'est là qu'on commence à développer. Vous savez, on dit que dans le Zohar, c'est écrit que dans les noms de Yudke et Vavke, la lettre Yud et la lettre He, la lettre Yud, c'est comme la Chorma. La lettre He, c'est comme la Bina. Si vous voyez graphiquement, quelle est la différence entre la lettre Yud et la lettre He? La lettre Yud, d'accord, c'est comme une petite virgule. Et c'est quoi la lettre He? Cette virgule-là, tu la prends, et hop, on l'a étendue. Et elle a refermé tout le carré. Mais d'où elle a démarré? Elle a démarré du petit yud qu'il y avait en haut. C'est exactement l'idée qu'on vient d'expliquer. Que le yud sans le he ne vaut rien, le he sans le yud ne vaut rien. Le papa sans la maman ne sert à rien, et la maman sans le papa ne sert à rien. D'accord? Si le papa ne donne pas la goutte, ça servira, la maman ne peut rien faire. Et s'il n'y a pas de maman pour récupérer cette goutte, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il a développé ça dans le chapitre 2, parce que c'est très important à comprendre ça. Yud c'est chorma, he c'est bina. Et on le voit dans la forme graphique, on le voit tout de suite. Vehen hen. Av em amolidot av avat Hashem viratu ufachado. Maintenant, ce qu'il va expliquer, c'est qu'en vérité, quand on parle maintenant de Chorma et Bina, ça veut dire la capacité d'innover et la capacité de développer, ça c'est les mamans, c'est ça la maman. Pourquoi c'est ça la maman? Parce que c'est ça ce qui va générer un vrai sentiment. Pourquoi? Ça, j'y arrive tout de suite. D'abord, il y avait des questions, je crois, donc on va développer les questions. Il y a des questions, oui.
C'est un cours de Rav, je ne sais plus. Oui. Il disait que vengeance, c'est un milliardaire, donc il faut combien d'idées, ils sont un différent monde. En fin de compte, c'est pas lui qui a une idée, c'est Hachem qui a une idée.
J'ai compris. Je rentre pas dedans maintenant. Je suis pas en train de poser la question qui a envoyé l'idée. Je demande à quoi sert l'idée. T'as des gens qui ont plein d'idées, des génies qui ont plein d'idées, qui ont des idées intéressantes, des choses à dire surtout, mais concrètement, ils. Donc, il y a un qui l'entend, il dit hop, il accroche le projet, et hop, il va déposer le brevet, et c'est fini, il va faire des millions. C'est une force à le savoir développer. Et pas tout le monde sait le faire. D'un autre côté, pas tout le monde sait avoir des idées. D'accord? Il faut les deux. C'est exactement comme le papa et la maman. Il y avait d'autres questions? Ça, t'avais une question?
Il y a d'autres définitions de Chorma.
Il y a d'autres définitions, oui. Mais là, la définition, il la prend selon Sefer Yetzirah. C'est Sefer Yetzirah qui donne la définition comme ça de Chorma Bina Da'at, ça veut dire, c'est les phases de développement d'une idée. Chorma, c'est le flash. Bina, c'est le développement. Da'at, on t'en expliquera à la fin du chapitre. Là, maintenant, ce qu'il va expliquer, c'est comment le cerveau peut générer un sentiment. D'accord? Donc, il va donner un exemple. Qui a sechel shebenefesh amaskelet? Prenons un exemple. Le cerveau. Kshemit bonen ou ma'amik meod bigdulat hachem. Voilà. Imaginons un cas. Moi, maintenant, tu me prends, j'ai aucun sentiment envers Dieu. Prince de Shalom. D'accord? Ou bien, en tout cas, même si j'ai un sentiment, je me dis peut-être que ce sentiment, c'est l'autosuggestion et que j'ai pas de vrai sentiment. Je le connais pas, je l'ai jamais vu. Pourquoi tu veux que j'aime quelqu'un? Pour aimer quelqu'un, il faut que je sente qu'il y a un feedback. D'accord? Il faut que j'en m'attire. Comment tu veux que j'aime Dieu? Que je craigne Dieu? Bon, peut-être craindre et encore, tu vas me dire le gay homme, je sais pas, j'ai jamais vu, moi. Donc, on est obligé de passer par la réflexion. C'est quoi la réflexion? À quoi je vais réfléchir? Je vais réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Je vais réfléchir comment Akadosh Baruch Hu est grand. Je vais réfléchir qu'est-ce que Dieu représente dans ma vie. Je vais réfléchir quels sont les cas dans lesquels j'ai vu de mes propres yeux comment c'est Dieu qui gérait le monde. Pour l'instant, je sens rien. Je fais que réfléchir. C'est bien sûr que l'idée de base, je l'ai. Au fond de moi, je sais que je crois en Dieu. Mais si je passe pas par la phase de Bina dans laquelle je réfléchis, et je me dis, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que représente Dieu dans ma vie? Pourquoi? Qu'est-ce que j'en ai à faire de Dieu, moi, maintenant? Tu réfléchis. Pourquoi j'en ai à faire de Dieu? Qu'est-ce que Dieu représente dans ma vie? Qui a dit qu'il y a un Dieu? Pourquoi il y a un Dieu? Qu'est-ce que ce Dieu fait dans ma vie? Tu réfléchis. À force de réfléchir automatiquement, tu vas sentir que le projet t'accroche. Tu vas sentir que ça t'attrape. Tu dis, c'est vrai, il y a une logique dedans. Et ce qu'il va expliquer, c'est qu'à force de réfléchir, à un moment, tu vas sentir que tu sens la chose. Tu sens que tu commences à attraper la chose. Et c'est là que tu as un vrai sentiment. C'est là que tu as un vrai sentiment qui va se créer. Je vais donner un autre exemple, peut-être pour expliquer ça, un exemple qui est peut-être plus proche de nous. Quand on dit, par exemple, qu'un homme, il aime une femme. D'accord? Un exemple, on en a parlé il n'y a pas longtemps. D'accord? Non, mais c'est un exemple classique. Ça veut dire, quand on dit qu'il aime une femme, il aime quoi? Non, sérieusement, je vous pose une question sérieuse.
Il aime
d'accord? Il aime sa femme?
Non, il aime sa jouissance, sa vie.
Hein?
Il aime le personnage, oui.
Attends, je te pose une question. Et quand il trompe sa femme avec une autre femme, Dieu préserve.
Il
aime l'autre femme aussi?
Non, mais s'il aime
la. Et l'autre femme, elle est mariée. Et il va lui casser sa vie, à lui et à elle, à tout le monde.
Mais là, tu vas dans la misère, là. Tu vas plus dans la relation amoureuse.
Ça change. C'est une pulsion. La réponse est très simple. Écoutez bien. Non, mais c'est très. Rasé Shalom. Non, j'explique. C'est pas moi qui donne l'exemple, c'est Laura Stenzalt. Je me serais pas permis. La réponse est très simple. Quand c'est un amour qui est uniquement une pulsion, en vérité, c'est pas l'autre personne que j'aime, c'est moi que j'aime. Je m'aime à moi. Et comme j'ai envie de kiffer, alors ça me procure un kiff. Le jour où ça arrêtera de me procurer un plaisir, j'essaierai de trouver d'autres choses. S'il n'y a pas d'autres choses, dans ce cas-là, je zappe. Parce qu'en vérité, c'est pas l'autre personne que j'aime, c'est moi que j'aime. Je m'aime à moi, j'ai envie de profiter, j'ai envie de kiffer. 2 secondes, laissez-moi arriver, 2 secondes. C'est quoi le vrai amour selon la Torah? C'est très compliqué. C'est quoi le vrai amour selon la Torah? C'est que je vais réfléchir aux qualités de la personne. Je vais réfléchir pourquoi je dois l'aimer. Qu'est-ce qu'il représente dans ma vie?
Normalement, quand t'aimes,
Le Midrash dit que ça, c'est la démarche qu'a fait Avraham Avinu. Avraham Avinu, comment il a découvert Akadosh Baruch Hu? Comment il s'est mis à aimer Akadosh Baruch Hu? Avraham Avinu a commencé à aimer Akadosh Baruch Hu de manière parfaite seulement à l'âge de 40 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à 40 ans? À partir de 3 ans, il a commencé à réfléchir.
Il est tombé amoureux.
Réfléchir! Non, réfléchis! Tu peux pas tomber amoureux de qui? Tu peux pas tomber amoureux de quelqu'un que tu connais pas? Il a
observé.
D'accord? Il a réfléchi! Qui est Dieu? Qui est la force suprême? Il a commencé à réfléchir. Et au début, il a pensé c'est le soleil. Après, il a vu qu'il y a quelque chose qui est plus fort que le soleil. Après, il a cru que c'était les nuages. Après, il a cru que c'était le vent. Après, il a cru, etc. Il a fait que réfléchir. Et à un moment, ce que te dit l'Admor HaZaken ici, c'est qu'à force de réfléchir à quelque chose, tu sens que tu t'attaches à la chose. À force de réfléchir aux qualités de quelqu'un, quand tu t'expliques pourquoi tu dois aimer la personne, automatiquement, à un moment, tu vas commencer à l'aimer. Mais là, c'est plus un amour que tu t'aimes à toi, tu veux kiffer. Tu aimes vraiment l'autre personne pour les qualités qu'elle a. Pas parce que toi, tu vas en profiter. Tu aimes l'autre personne pour les qualités qu'elle a. C'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué ce qu'il dit ici. D'accord? Donc, encore une fois, l'idée c'est quoi? C'est qu'elle veut expliquer l'Admor HaZaken. Qu'est-ce que veut expliquer l'Admor HaZaken? Ce que veut expliquer l'Admor HaZaken ici, c'est qu'en vérité, le cerveau a la capacité de générer un vrai sentiment. Vous vous rappelez quand on avait fait le premier Fabringen, pour conclure le Tanya et pour commencer le Tanya, je vous avais expliqué que le chemin du Tanya est un chemin qui est long, mais court. Et qu'est-ce qu'on avait expliqué? Pourquoi long mais court? Là, on commence à comprendre. Parce que cette démarche, l'Admor HaZaken te dit, moi je suis pas là pour te faire des sentiments express comme ça. Tu viens, hop, on va te chauffer, c'est fini. Non, ça marche pas ça. On n'est pas là pour ça. On est là pour créer des sentiments durables. Et pour créer un sentiment durable chez quelqu'un, il est obligé de passer par la réflexion. Il faut qu'il comprenne la chose parfaitement. Et une fois qu'il a compris la chose et qu'il s'est attaché avec la chose, que la chose lui parle, là, automatiquement, il va sentir qu'il va commencer à aimer la chose. On va continuer dans les détails, mais d'abord, s'il y a des questions, allez-y. N'hésitez pas, c'est un sujet compliqué, il faut poser toutes les questions que vous avez.
Est-ce qu'on peut aimer la chose? C'est pas une marque de tête, une discussion
dans les... Pas du tout, au contraire, le Rambam, là, il ne sait pas si on va acheter du Rambam.
Mais
Ça, tout ce chapitre-là, en vérité, bon, je vais vous donner les sources. Bien sûr, au contraire. Dans les Chotis de la Torah, il dit Ve'er, il y a Derech, il y a Avato. Comment on peut aimer à Kadosh Baruch Hu? D'accord? Et non, il dit comment est le Derech?
Comment on peut imposer à quelqu'un d'aimer? C'est un sentiment. Comment tu peux imposer d'aimer? Est-ce que tu une mitzvah d'aimer?
Il y a une mitzvah d'aimer à Kadosh Baruch Hu?
Non, c'est pas d'après tout le monde.
Ah, deux secondes. Le Rambam pose la question. Le Rambam pose la question, il dit, c'est écrit, il y a une mitzvah d'aimer à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que tu peux donner un ordre à quelqu'un d'aimer? A priori, non, c'est ta question. D'accord? Par exemple, imagine-toi que j'aime pas le café. Et tu me dis, tu aimeras le café. Est-ce que tu peux me donner un ordre d'aimer le café? D'accord? Non. Tu peux me donner un ordre.
On
va servir un peu de bourra.
Non, mais alors. Tu vas apprendre à aimer.
Ah, très bien. Bon point. Ça veut dire quoi? Dis le Rambam, Le Rambam pose la question. Il dit, comment on peut donner un ordre à quelqu'un d'aimer? S'il aime pas, il aime pas. Tu peux lui donner l'ordre de faire quelque chose, mais pas d'aimer quelque chose. Et qu'est-ce que répond Rambam? Le Rambam, il dit, la mitzvah, c'est pas d'aimer Dieu. La mitzvah, c'est de te mettre en condition pour aimer à Kadosh Baruch Hu. C'est exactement ce qu'il est en train d'expliquer ici. La base de ce pérec, la base de ce chapitre-là, c'est qu'il te dit, on n'arrête pas de dire, il faut aimer, il faut craindre Dieu. Pourquoi tu veux que je l'aime et je le crains? Je le connais pas, je l'ai jamais vu. Dis-moi, donne-moi un ordre si tu veux de faire quelque chose. Dis-moi, fais des mitzvot, ne fais pas d'avérot. Bon, d'accord. Mais tu veux que je sente? Désolé, je sens rien du tout. Alors, je fais quoi? Tu vas me tuer? Je sens pas. Qu'est-ce qu'on va faire? D'accord? C'est quoi la réponse? La réponse, c'est que selon le Rambam, c'est l'achat du Rambam, ça. Qui dit que ve'aftat Hashem Elokecha, c'est quoi la mitzvah? La mitzvah, c'est de te mettre en condition pour aimer Akadosh Baruch Hu. Et vous allez me dire, si j'arrive pas. Ça, c'est ce que le Rambam, il dit. Que Akadosh Baruch Hu a mis chez chaque juif de série, que s'il va réfléchir à Akadosh Baruch Hu et qu'il va s'approfondir pour penser qu'est-ce que Dieu représente dans sa vie, à un moment, il y aura un déclic. Donc, heureusement que c'est comme ça.
Là,
il aura un sentiment. Oui. Mais c'est un sentiment qui sera généré par la réflexion.
Par le cerveau.
Et ça, un sentiment. Tout le monde a un secret. Ça n'existe pas. Tout le monde a un secret. Bah, chacun a son niveau. Il aura un amour qui est plus basique, mais chacun a un secret. Personne n'a pas de secret. L'homme, la définition de l'homme, c'est qu'il a une nefesh à masquer la terre, c'est-à-dire qu'il a la capacité de réfléchir. Ça, c'est la définition de l'homme.
On peut aussi aimer Dieu sans avoir à réfléchir à Dieu.
Dans ce cas-là, ce qu'il va expliquer à la fin du chapitre, c'est que très souvent, très souvent, c'est de l'autosuggestion. Tu te dis, j'aime Dieu, mais tu l'aimes pas.
Tu peux l'aimer au travers des rabbinim.
C'est-à-dire quand tu l'aimes?
Au travers des rabbinim.
Alors, t'aimes les rabbinim, t'aimes pas Dieu, alors? Quand tu dis, j'aime Dieu, qui j'aime? J'aime quoi? Pourquoi je l'aime? La Torah n'a pas dit, tu aimeras les rabbinim. La Torah a dit, tu aimeras Dieu. Je l'aime pas. C'est pas que je le déteste, c'est que je le connais pas. Non, ça c'est le Dovka Bidrachav. D'accord, bon, c'est un et, c'est un ribouille, mais ça change pas. Dieu nous demande d'aimer à Kadosh. Comment tu veux que j'aime à Kadosh Baruch
Hu? Voilà, parce que comme c'est pas donné à tout le monde d'aimer Dieu, parce que Dieu c'est quelque chose qui est impersonnel,
et ben,
le moyen aussi d'aimer le Talmid Chacham qui est personnel, le Rav, le Rabbi, si tu veux, à travers ce Rabbi.
Ça c'était le thème la semaine dernière. L'Admor HaZaken va expliquer ici que chaque personne, et c'est ça le but du Tanya, que chaque personne, avec la bonne réflexion, et là il va juste donner l'idée. Comment, quand on réfléchit, on peut arriver à des sentiments, mais dans la suite du Tanya Bezrat Hashem, on aura des réflexions concrètes. À quoi réfléchir pour générer un sentiment? D'ailleurs, par exemple, après, quand on arrivera au chapitre 29, il dira, qu'est-ce que va faire celui qui a le cœur bouché? Il a 40 ans le bonhomme, il n'arrête pas de réfléchir, ça passe pas. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est un peu ta question. Et là, il va donner des choses à réfléchir. Ça, c'est le hard, d'accord? Des choses hard à réfléchir. Et là, il dit, quand tu réfléchis à ça, là, ça va passer. Mais ça, le chapitre 29, c'est pour la fin.
C'est des stops.
Voilà, je vous l'ai donné, mais vous l'avez pas dans votre livre là.
Mendy, quand tu prends reprends l'exemple de mariage, du futur mariage entre
oui. Une
femme. Bon, il y a beaucoup, moi je connais pas mal de personnes, anciennes et encore là, contemporains, qui se marient parce qu'ils doivent se marier.
Attendez, c'est quoi ils doivent se marier?
Je t'explique. Laisse-moi si tu vas comprendre.
Mais c'est quoi ils doivent?
Ils apprennent à se connaître et pendant le mariage, c'est là que les sentiments sont. Comment dire?
C'est un chidour.
Mais c'est pendant le mariage.
Oui.
Alors que normalement, ça devrait se faire bien avant. Mais là, non. Ils se marient parce qu'il y a des conventions.
On n'a pas le droit de se marier. On n'a pas le droit de se marier comme ça. Il faut sentir quand avant de se marier. Il y a un psaque clair, ça.
Non, mais on en parle.
D'abord, on n'a pas le droit. Quand on se marie avec une fille. Non, mais c'est, je suis sérieux. Le Magan Avraham parle de ça. Quand on se marie avec une fille, même quand c'est un chidour, il faut avoir ce qu'on appelle un minimum, ce qu'on appelle Meshirat Alev. Meshirat Alev, c'est pas une attirance du cœur, mais ça veut dire que le cœur sente qu'il y a quelque chose. Le cœur t'envoie une pulsion, il te dit il y a quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il est attiré par son corps, etc. Non, c'est pas de ça que je parle. Que son cœur lui dit il y a quelque chose.
La fille n'avait pas le droit de discuter.
Bon,
ça a existé. Il a raison.
Bien sûr, ça existait.
Bien sûr. Mais ceux-là, ils n'ont pas respecté la Torah, ceux qui ont fait ça.
Oui, mais parce que c'est des.
C'est ce que dit la Gemara Kiddushin. On avait appris dans la Gemara Kiddushin. La Gemara Kiddushin, elle dit qu'on n'a pas le droit de se marier avec une femme qu'on risque de détester, parce que c'est interdit de détester un juif. Et c'est pour ça que la Gemara là-bas, elle donne des halachot. Elle dit, par exemple, quand on va se fiancer avec quelqu'un, à l'époque, des fois, le père, il allait fiancer son fils. Et il était le shliach de son fils. Et la Balakmara a dit que bien que Minadine c'est moutard, elle dit que concrètement, les rachamim m'ont interdit de le faire. Pourquoi? Parce qu'après, peut-être le fils, il va dire, en ce cas-là, puisque mon père est ma fiancée, je vais rester avec elle. Et on verra bien ce que ça va donner. Mais en vérité, il la supporte pas. Et donc, il va détester quelqu'un. Et toute sa vie, il fera un interdit de la Torah de détester un juif.
D'un autre côté, c'était pour éviter.
Attends, il faut payer le mariage, il faut payer le divorce.
Mais dis, ça existait aussi pour éviter qu'ils partent.
Jamais dans notre famille, quelqu'un a divorcé. Comment? Attends un peu.
Même une mitzvah, le divorce.
Oui, c'est ça le pchat. Oui. Non. Bon, on continue. Rabotai, on va pas, s'il vous plaît, on va pas s'écarter. Je veux vraiment pas courir dans ces sujets-là. Je veux qu'on garde le. Tout ça, c'est des sujets qu'on reviendra dessus. Je veux qu'on garde simplement le fil. Le but de l'Admor HaZaken ici, c'est on apprend un très très grand chidouche aujourd'hui. Ce qu'il veut nous expliquer aujourd'hui, c'est que le cerveau a cette capacité de maîtriser le cœur, et pas seulement de maîtriser le cœur, de générer des sentiments. Et là, il commence à nous expliquer un exemple concret. On n'est pas encore rentré dans les détails, il faut qu'on avance. Car c'est dommage, parce que sinon on aura terminé le cours. Si on n'est pas rentré dans les détails, c'est dommage. C'est bon, Rabotai, on va faire quelques lignes encore. J'aimerais vraiment qu'on rentre dans les détails. Pour expliquer comment le cerveau va générer un sentiment. Donc, qui hasechel chez benefesh amaskelet? Car hasechel, le cerveau chez benefesh amaskelet. On va prendre un exemple concret. Comment le cerveau va générer des sentiments? Shemit bonen umaamik meod bigdulat Hashem. Lorsque la personne va réfléchir et va s'approfondir dans la grandeur de Dieu. Ça veut dire quoi? Il va réfléchir à quoi? Concrètement, il va réfléchir à quoi? Il te dit à quoi il va réfléchir? Er ou memale kolamin. D'abord, il va réfléchir comment Dieu se trouve partout. Comment on va réfléchir à ça? Dans notre vie, c'est une des bases de la chassidoute que le Baal Shem Tov répétait souvent. Une des bases de la chassidoute, et qu'en vérité, selon le Baal Shem Tov, c'est une des bases du judaïsme, c'est le concept de Hashgacha Pratit. De savoir reconnaître la présence de Dieu partout. Et quand on ouvre les yeux, on voit la fréquence, comment les choses se passent, et la manière comment les choses se passent, automatiquement, on voit qu'il y a une main qui est derrière. Comment Dieu, il est mémalé, Kolalmin, que Dieu emplit le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit dans le monde, il n'y a pas une chose dans le monde qui n'est pas gérée par Dieu. Ça, c'est déjà un premier point. Un premier point qui peut déjà beaucoup, beaucoup t'aider à ressentir qu'il y a un Dieu dans le monde. Pour l'instant, il n'y a pas de sentiment. Mais déjà, le fait même de ressentir qu'il y a un Dieu dans le monde, c'est déjà pas mal. Donc, par exemple, on va réfléchir. Il y a des nuages, il y a la météo, il y a des déserts, il y a des forêts, il y a des montagnes. D'où ça sort tout ça? Comment ça tourne? D'où ça sort? Il y a une main qui est derrière tout ça. Ça tourne pas tout seul. La nature. D'accord. Mais qui fait tourner cette nature? Mais malé, quoi. Mais qui c'est qui fait tourner tout ça? Qui c'est le patron qui est derrière tout ça? Ça, c'est déjà un très grand point qu'on peut réfléchir. Il faut que je finisse le développement. On a un premier point qui est Memale Kolalmin. C'est quoi? On réfléchit comment Akadosh Baruch Hu, il est partout. Et quand on réfléchit même dans notre propre vie, et qu'on voit des fois des choses qui nous arrivent, des choses qui sont pas logiques et des choses qui ne suivent pas une fréquence normale, on comprend qu'il y a quelque chose. J'ai pas encore touché au miracle, j'ai même pas parlé des miracles. Que le fait même d'analyser un petit peu sa vie, on comprend que autant, par exemple, un businessman, il va voir que autant, un jour, il va travailler, et en un jour, il va faire ce qu'il n'a pas fait en un mois. Et autant, en un mois, il n'a pas gagné ce qu'il a gagné en un jour. Voilà. Et pourtant, il n'y a pas de formule. Tu vas essayer de réfléchir, mais quelle est la formule? Pourquoi là, j'ai plus attiré les clients? Quelle parole j'ai dit qui a mieux attiré les clients, moins bien attiré les clients? Des fois, il n'y a pas. Des fois, tu sens qu'il y a quelque chose qui est derrière. Donc, en réfléchissant, mais attention, il dit bien ici, mitbonen ou maramik. Il faut s'approfondir. C'est pas juste, j'ai vu Dieu. Non, ça marche pas comme ça. Il faut réfléchir et s'approfondir. Et quand on s'approfondit, on cherche, on trouve. On trouve comment Dieu est présent, Hashgacha Pratit, dans chaque petit détail qu'il y a dans la vie de tous les jours. Une phrase très célèbre du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov disait, même le vent qui fait souffler une feuille et qui la fait tomber, il y a un but. Alors d'où il sort ça? C'est une Gemara. Rashi ramène ça clairement dans la Gemara. Il dit que des fois, Kadosh Baruch Hu, il voit des fois une fourmi qui est trop chaud. Une fourmi qui est trop chaud. Elle est trop chaud. Et le soleil tape fort sur elle. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il envoie un petit coup de vent. T'as une feuille qui tombe. Elle tombe sur la fourmi. La fourmi, elle se repose. Après, elle s'en va. Parce que la fourmi, elle ne sait pas chercher, regarder où elle peut se cacher. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pareil, là-bas aussi, le Bachan, il ramène cette Gemara là-bas qui dit que Rabbi Yochanan, il dit que Akadosh Baruch Hu, il fait ça aussi dans les animaux. Et quand il y a un animal qui doit accoucher, il y a des animaux pour lesquels la souffrance d'accoucher est tellement dure parce qu'ils sont pas faits pour accoucher, que normalement, ils auraient dû mourir de cette souffrance. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu quand ils doivent accoucher ces animaux? La Gemara a dit, Akadosh Baruch Hu, il envoie un moustique ou d'autres insectes qui les piquent. Parce que quand on pique quelqu'un, quand t'as une petite douleur peut cacher une grande douleur. Essaye une fois, vous allez voir, quand vous avez mal à la tête, pince-toi. Et tu vas voir que ça peut atténuer parce que une douleur peut cacher une autre. C'est comme ça, c'est comme ça que ça marche. Donc, Akadosh Baruch Hu, quand il voit qu'un animal qui doit accoucher, il envoie la moustique au bon moment qui va être là, qui va piquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on réfléchit, on voit que ça tombe pas tout seul. Il y a quelque chose qui tourne derrière. Il y a un dieu qui est en train de faire tourner tout ça. Ça, c'est déjà un grand point. Quand on a compris ça et quand on s'est approfondi dans ça, hein, déjà, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose. Donc, notre cerveau, il dit, attends, il y a quelque chose. Donc, je commence à m'attacher à la chose un petit peu. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxième point.
Ça pousse pas à l'amour.
Deuxième point. J'y arrive, une seconde. Deuxième point. Sauvev Kolamine. Quand je pense comment Dieu, non seulement qu'il est présent dans le monde entier, mais comment Dieu est au-delà du monde, dans le sens, les miracles. Des fois, il y a des miracles. Il y a des miracles, et là, par exemple, on peut parler des tzadikim, au travers des tzadikim, ou des miracles qu'on a dans le monde. Ça, c'est pas simplement les petites choses de la nature, que la nature, on croit que c'est noyé dans la vie de tous les jours, mais qu'en vérité, il y a Dieu derrière. Des fois, il y a vraiment des miracles. C'est quoi un miracle? Un miracle, c'est quelque chose qui casse la nature. C'est contre la nature. Ça aussi. Ça peut aider une personne, le miracle, ça peut aider une personne. Réfléchir à un miracle. Parce que des fois, on a des miracles qui nous arrivent dans la vie, mais on zappe. Le fait même de réfléchir à un miracle, de l'écrire, par exemple, et de le raconter à ses enfants. On a des miracles, des fois, par exemple, des fois, t'es dans la voiture, combien de fois ça arrive, des fois? Dans la voiture, des fois, t'as des trucs que, t'as un réflexe, des trucs comme ça, des fois, il y a ma vache un miracle. Des fois, il y a des miracles, des fois. D'accord? C'est rare, mais il y a des miracles. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Malheureusement, les miracles, on les oublie. Comme ça. Un miracle, sur le moment, pack, ça te marque. Ou bien, des fois, des gens qui ont des miracles avec des tzadikim, sur le moment, ça les marque. Et après, il a oublié. Tu vas le voir un an plus tard, il a oublié. Le fait même de réfléchir au miracle, de se rappeler comment il y a eu un moment dans lequel j'ai senti qu'il y avait une puissance qui était beaucoup plus forte que moi. Il y avait quelque chose qui était plus fort que moi. Le fait même de réfléchir à ça, ça peut m'aider à commencer à ressentir quelque chose. Et là, progressivement, je vais commencer à ressentir une émotion intellectuelle. C'est quoi une émotion intellectuelle? Ça peut nous arriver, par exemple, quand tu lis un livre. C'est intéressant. Et tu sens que ton cerveau, il kiffe. Bon, mais ton cœur, il reste tranquille. Hein. Tu vas pas embrasser le livre. Mais tu sens que ton cerveau, il kiffe. C'est une émotion intellectuelle. Donc, pour répondre à la question qu'on a dit tout à l'heure, il y a des émotions intellectuelles. Big time. Bien sûr qu'il y a des émotions intellectuelles. Mais on n'est pas encore aux émotions du cœur. On est simplement dans une émotion intellectuelle. Ça veut dire quoi? Concrètement, on peut avoir une personne qui va étudier la grandeur de Dieu et qui va être impressionnée de la grandeur de Dieu. Après, il sort dehors, il voit une femme, hop, il fait la bêtise. Il dit, mais comment? T'étais impressionné de la grandeur de Dieu, comment tu peux faire la bêtise? Il dit, ça c'est le cerveau, ça c'est le cœur. Le cerveau, il a compris, il a kiffé Dieu, et le cœur, il va faire autre chose. D'accord? C'est-à-dire que là, pour l'instant, on n'est pas encore tombé dans les sentiments.
Ouais, mais c'est le cerveau qui l'a fait.
Et c'est, malheureusement, c'est... Ah, j'arrive. Attends, doucement. On va développer comment on va passer au sentiment du cœur. Et ça arrive très souvent, ça. Combien de fois ça nous arrive? Tu viens à un cours, l'idée te marque, etc. Et quand t'arrives à la concrétisation, il y a rien qui change. Pourtant, t'avais compris, ça te parlait et tout, hop, il y a rien qui change. Pourquoi? Parce que t'as peut-être eu une émotion pendant le cours ou quand t'as étudié ce texte, mais l'émotion était uniquement intellectuelle. C'était une émotion qui était peut-être vraie, mais c'était une émotion qui était intellectuelle. Donc après, il y a un deuxième travail. Il y a un deuxième travail pour faire descendre cette émotion qui était intellectuelle, pour la faire descendre dans le cœur. Ça, c'est un autre travail encore qu'on va développer.
Et pas l'inverse.
D'accord? Et pas l'inverse. Et là, quand on arrive à faire tout ce développement-là, là, le sentiment, c'est du béton armé. Il est ancré dans toi. Ça bouge pas, parce que c'est un sentiment que je l'ai créé, le sentiment. C'est moi qui l'ai créé. Je suis pas passif. C'est pas je suis passé devant quelque chose et j'ai été attiré. Non! C'est moi qui l'ai créé, le sentiment. C'est moi qui l'ai généré, le sentiment. Quelque chose que toi qui as généré, c'est moi. C'est une partie de moi-même. Ça, avant que ça parte, il faut du temps. Mais c'est un travail qui est très long. C'est un travail d'une vie entière.
Si on y arrive.
On y arrive. Vous inquiétez pas, on y arrive. C'est notre travail de tous les jours. Donc là, déjà, on voit l'importance de la réflexion à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. On dit que les chassidim, ils passaient discrètement, hein, soit avant la tefila, soit chez eux à la maison, etc. Ils passaient des fois des heures qu'ils le voyaient rester assis comme ça. T'as l'impression qu'il est... Moi, j'ai vu des chassidim comme ça. Non, mais sérieusement, quand j'étais à la yeshiva de Brunois, j'ai eu le mérite de voir des anciens chassidim comme ça. Tu les vois, il s'assoit dans le Beit HaMidrash comme ça, avec son livre, il s'assoit comme ça, et tu vois, il est comme ça.
Il dort.
Avec les yeux ouverts, comme ça. Tu passes devant lui, t'as des gosses qui passent, qui crient, etc. Il est comme ça.
Il bouge pas.
Les yeux ouverts ou
verts? D'accord, on a les yeux ouverts. C'est impressionnant. C'est impressionnant à voir. D'accord?
Il n'y en a pas qui...
C'est impressionnant à voir. C'est une force. Essaye une fois de réfléchir à un sujet pendant une minute, non-stop. Vous allez voir comment... Une minute, juste une minute. Tu prends un sujet, tu te mets à réfléchir. D'accord? Ferme les yeux si tu veux. Tu te mets à réfléchir pendant une minute au sujet, sans quitter le sujet de ta tête. Faire que même une minute, c'est compliqué. À plus fort, 5 minutes et plus fort, 10 minutes. Ça, c'est un commentaire du rabbi. Le rabbi dit que dans le Tania, l'Admorazakan lui demandait à ses chassidim de réfléchir une heure. Après, le rabbi, quand il a avancé, il a dit, bon, nous, on va demander 10 minutes. Et après, récemment, j'ai vu une entrevue dans laquelle le rabbi, il a dit à un jeune homme de la yeshiva, il a dit même une minute, même 30 secondes.
Une heure dans la journée.
30 secondes. Avant de faire la tefila, ferme tes yeux et pense à Dieu. 30 secondes. 30 secondes, c'est rien 30 secondes. Mets un timer dans ton iPhone, 30 secondes.
Mais ça veut dire quoi?
D'accord? Qu'est-ce que Dieu représente dans ma vie? Qu'est-ce que j'en ai à faire de Dieu? Voilà, là je me pose la question, j'ai pas la réponse. Il faut réfléchir, je dis, mais c'est vrai, qu'est-ce que tu représentes dans ma vie? C'est vrai, pourquoi? Qu'est-ce qui me change? Qu'est-ce que ça me change? Pourquoi ça me parle? Pas qu'est-ce que Dieu a fait dans le monde, qu'est-ce qu'il m'a fait à moi? En quoi ça me correspond? En quoi c'est ma vie? Ici, il dit mitbonen ou ma'ami qu'il faut s'approfondir. Peut-être pendant la prière. En général, c'est avant. Oui. Oui. Pourquoi c'est automatique? Ah,
inné. Pourquoi ça serait pas inné?
Ça devrait. Non, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ce que le Rambam a dit. Que étant donné que nous sommes les enfants de Dieu, le problème c'est qu'on voit pas le Père. Comme on voit pas le Père, on n'a pas de feedback, donc c'est difficile. Mais étant donné que nous sommes dans l'absolu les enfants du Père, donc si on va réfléchir, on peut générer le sentiment. Mais il faut y réfléchir. Parce que le cerveau, le cœur arrive à ressentir seulement ce qu'il connaît. Or ça, je connais pas. Je te donne un exemple très simple. Tu prends un bébé, d'accord? Tu vas lui présenter, par exemple, je sais pas moi, tu vas lui présenter du piment. Est-ce qu'il peut dire j'aime ou j'aime pas? Non, il sait pas pour l'instant, parce qu'il a pas goûté. Quand il a goûté, et que son cerveau a analysé et qu'il a compris que c'est pas bon, la prochaine fois qu'on va lui montrer, il va dire j'aime pas. Le problème, c'est que Dieu, je l'ai pas touché, je le connais pas, donc c'est très difficile à générer un sentiment. Comprenez-vous ce que je t'ai envie? Il est en moi, c'est pas qu'il est en moi, je suis son fils. Et imagine un fils qui n'a jamais vu son père. On lui dit, est-ce que tu aimes ton père? Il dit, je le connais pas, mon père. Parlez-moi de mon père. Racontez-moi qui était mon père. On va lui raconter qui était son père et là, il va commencer à avoir des sentiments. Mais si on lui raconte pas qui est son père, il dit, vous me demandez de l'aimer. Je le connais pas. Je sais pas qui il est. Pour moi, je suis tombé du ciel.
Non, mais on est croyant, fils de croyant. On a un amour.
C'est pas une contradiction. C'est pas une contradiction. Là, ce qu'on veut, c'est un amour. On veut que c'est un amour qui est dans le cœur, comme tu aimes ta femme et tes enfants. C'est pas du tout automatique. Est-ce qu'on aime Dieu comme on aime sa femme et ses enfants? Pas du tout. De série, c'est pas comme ça. Il faut se travailler pour ça. Il faut que le cerveau travaille pour générer ce sentiment-là. Donc, er ou memale kol almin, ve sovev kol almin, ve kula kamek el achashiv. Il va réfléchir comment Akadosh Baruch Hu est présent dans tous les détails de la vie. Comment Akadosh Baruch Hu fait des miracles. Comment Akadosh Baruch Hu en vérité, au-delà de tout ça, que ce que je crois comprendre de Dieu, je me dis, mais attends, tu crois que moi j'ai compris ce que c'est Dieu? C'est-à-dire, à un moment, tu te dis, voilà, j'ai compris comment Dieu fait les détails, la nature. Après, tu dis, j'ai compris que Dieu fait des miracles. Après, tu dis, mais attends, mais c'est rien ce que j'ai compris par rapport à ce qui est Dieu réellement. Et quand tu te mets à réfléchir à tout ça, automatiquement, tu te mets à rêver, et tu te mets à réfléchir comment tu es petit par rapport à Kadosh Baruch Hu, comment tu es tout petit. Et là, automatiquement, qu'est-ce que tu vas avoir comme sentiment? Tu vas te sentir tout petit. Qu'est-ce que tu vas avoir comme sentiment à ce moment-là? C'est quoi le prochain sentiment quand tu te sens tout petit? Là, t'as un sentiment de crainte. T'as un sentiment de crainte, tu dis, mais attends, je suis tellement insignifiant devant Kadosh Baruch Hu, comment je peux me permettre de pas écouter quand il me parle? Il faut beaucoup de temps pour réfléchir à ça. Tu te sens tellement tout petit, tu dis, mais attends, mais pour qui je suis maintenant, égoïste à moi dire, Dieu, il me dit quelque chose, moi, je dis, je fais pas. Je me mets à son niveau, et je le défie, il me demande de faire quelque chose, je le fais pas. Donc là, tu vas avoir un sentiment de crainte. Un sentiment de crainte, parce que tu te sens tout petit. Mais ce qu'il va expliquer plus tard, c'est que c'est pas forcément un sentiment de crainte, de peur. Il y a plusieurs craintes. T'as la crainte, j'ai peur. Non, là, c'est pas la peur. C'est le respect. Tu sens que tu respectes la chose, que ça te dépasse. C'est comme un exemple qui ramène ici. C'est comme quand tu vas devant un tzaddik, par exemple. Des fois, ça arrive quand on va devant un tzaddik, on se sent tellement petit qu'on a peur. Tu te mets à trembler. T'as pas peur qu'il va te frapper, il va pas te tuer, il va rien te faire, tzaddik. Pourquoi t'as peur? Parce que t'as ce qu'on appelle ira taromemut, t'as la crainte révérentielle. Il y a la peur de la punition. Et il y a la crainte révérentielle, tu te dis, il est tellement grand le tzaddik, j'ai pas envie de le décevoir, il est tellement grand, je me sens tellement petit, tu te sens tout petit, tu trembles. Ça, c'est un sentiment qu'on peut avoir. Le sentiment de se sentir petit devant, j'ai pas parlé de l'amour encore. Se sentir petit devant Kadosh Baruch Hu. Ça, il dit l'Admor HaZaken, avec une bonne réflexion. Mais attention, réflexion ma'amik. Amik en hébreu, c'est quoi l'air amik en hébreu? Romek, c'est quoi Romek? Approfondissement. Ça veut dire, quand tu vas t'approfondir, tu peux arriver à un moment dans lequel tu te sens petit devant Kadosh Baruch Hu. Comme il dit mon père dans les discours, des fois, tu te sens un microbe devant Kadosh. J'aime bien cette définition. Un microbe, je suis rien, qu'est-ce que tu te sens devant? Même pas un microbe. Tu te sens tout petit, tu te sens rien, insignifiant. Et là, automatiquement, quand tu vois ça, quand tu mets les choses en proportion, là, automatiquement, tu dis, attends. Je suis rien du tout. Moi. Dieu, il me parle et moi, j'écoute pas. Après, une fois que tu as eu ce sentiment de crainte, parce que là, on voit que dans la Torah, c'est la crainte qui vient avant l'amour. Une fois que tu as eu ce sentiment de crainte et que tu te sens tout petit devant la chose, là, après, tu vas avoir un sentiment d'amour. Tu as envie d'approcher la chose. Comme le tzaddik. Au début, tu rentres, t'as peur, d'accord? Tu flippes, quoi. T'es là, tu trembles. Et après, quand tu vois la Kdusha, quand tu sens la Kdusha, t'as envie de t'approcher, t'as envie de sentir la Kdusha. C'est-à-dire, d'abord, il y a eu la crainte, après, il y a eu l'amour. C'est comme ça que ça se passe quand on est devant une grande personne. D'abord, tu sens que la chose est très grande, elle te dépasse, et après, tu vas vouloir t'approcher. D'accord? Pas le contraire. Pas comme dans le Shidour, comme on l'a dit tout à l'heure. Pas le contraire, que d'abord, tu t'approches de la personne, tu l'aimes, etc. Et après, quand on dit maintenant, t'es marié avec elle, et quand elle dit non, il faut pas le faire, tu dis, attends, doucement, moi, je l'aime, moi, je la crains pas, moi, non. Ça marche pas comme ça. Quand on nous prépare au mariage, d'abord, on te dit, ta femme, tu dois la respecter plus que toi-même. Donc, il y a une sorte de crainte révérentielle. Presque une crainte. On te dit, c'est comme ça, c'est écrit dans la Gemara. La Gemara dit, quand une personne allait se marier, on lui disait, tu dois respecter ta femme. C'est quoi respecter? Ça veut dire que faut pas la blesser, il faut faire attention, tu dois la respecter. Donc il y a presque une distance. Il y a une distance avec elle. T'as peur de la blesser, t'as peur de la froisser. Et plus tu te rends compte que c'est grand, et plus t'as envie de t'approcher. Ben, c'est exactement comme il explique ça avec Akadosh Baruch Hu. Là, vous voyez, il vient de montrer clairement, on a fait que les têtes de chapitre, hein, mais il vient de montrer clairement comment, avec une bonne réflexion, je sais pas si j'ai réussi à retransmettre ce qu'il dit ici, mais avec une bonne réflexion, on peut générer un sentiment. Quand on réfléchit bien à quelque chose et que tu te sens bien petit devant un Kadosh Baruch Hu, à un moment tu te sens tellement petit, d'abord tu as un sentiment de crainte et juste après tu as un sentiment de vouloir t'approcher. Voilà une technique concrète, et ça cette technique-là, il n'invente pas l'Admor HaZaken, il se base sur le Rambam. Ceux qui veulent voir, c'est traduit en français, Rambam, dans les lois des fondements de la Torah, chapitre 4, il pose la question. Il dit, Ve'er ya derer le'avato, comment on peut aimer un Kadosh Baruch Hu? Et il répond. Il dit, va réfléchir comment un Kadosh Baruch Hu est grand, comment un Kadosh Baruch Hu est puissant, comment un Kadosh Baruch Hu décide tout, etc. Et à un moment, avec le temps, tu vas te sentir tout petit, et automatiquement, tu vas sentir que je suis tellement petit devant un Kadosh Baruch Hu que j'ai un sentiment de crainte devant lui.
C'est ce qu'on va faire. La crainte, tu peux l'avoir qu'un certain temps, alors que le respect, tu peux l'avoir.
Ça dépend. Dur. Alors encore une fois, ça dépend. Même chose. Ça dépend. Si c'est un sentiment qui est venu, ça veut dire comme ça. Si c'est un sentiment que tu n'étais pas passif, qui était actif. J'explique ce que je veux dire. Je vais expliquer ce que je veux dire. Une personne fait une avéra. Il a un sentiment, il se sent pas bien de ce qu'il a fait. Donc il est passif par rapport à l'avéra. Il a peur de la punition. Cette peur va partir. Parce qu'il n'a pas généré cette peur. Cette peur, il est passif par rapport à cette peur. Cette peur est venue, pas seulement parce qu'il n'a pas été puni, parce que cette peur, c'est pas lui qui l'a générée. Il a fait la bêtise, il savait que c'était pas bien, il a eu une peur parce qu'on l'a toujours appris comme ça, mais c'est pas lui qui a généré cette peur. Il se sent coupable. Ça part. Quand c'est pas une peur, comme on a dit, la peur de la punition. On parle pas de la peur de la punition, on parle pas de la peur du Guéhinnom. Je l'ai jamais vu, pourquoi tu veux que j'ai peur du Guéhinnom? T'as peur du Guéhinnom? Quelqu'un a peur du Guéhinnom ici? Non, c'est un critère, on aurait pas y passer. Mais est-ce que tu peux dire j'ai peur, je tremble du Guéhinnom? D'accord? Ah, bah, on a des descriptions du Guéhinnom. Si vous voulez, je peux vous donner les descriptions. Je peux vous faire des cauchemars. Mais je vous garantis que ça vous empêchera pas de faire la vérote. Pourquoi? Parce que j'ai pas peur. On te raconte ce qu'il y a, j'ai pas peur. Là, pour répondre à ta question, là, on parle d'un sentiment dans lequel je ne suis pas passif, je suis actif. C'est moi qui ai créé le sentiment. Je suis venu un matin, j'avais rien fait, j'ai pas fait d'avéra, j'ai pas fait de misa, j'ai rien fait. Je m'assois, je me mets à réfléchir, qu'est-ce que Dieu représente pour moi? Et automatiquement, tu réfléchis, à un moment, tu te sens tellement petit devant un Kadosh Baruch Hu, et là, t'as un sentiment que c'est toi qui as généré. C'est pas un sentiment que je suis passif par rapport à ça. Ce sentiment-là, avant qu'il parte, il faut longtemps. C'est pour ça qu'il dit l'Admor HaZaken, il dit ça. Il dit pas du tout, non, pas du tout. Non. Il va donner la technique. Pas du tout, non. Essayez de réfléchir juste 5 minutes, vous allez voir ça marche. Je vous garantis que ça marche. Rentrez chez vous ce soir, mettez-vous dans le salon, asseyez-vous sur le canapé, d'accord? Quand madame est déjà partie dormir ou je sais pas où, d'accord? Vous éteignez la télé, il y a pas de match, d'accord? Tu t'assois. 5 minutes, tu réfléchis à Dieu. Qu'est-ce que Dieu représente en vous? Vous allez voir qu'au bout de, même pas 5, mais au bout d'une minute, vous allez sentir que ça commence à travailler. Au début, c'est seulement émotionnel, ça fait quelque chose. Mais seulement, seulement, pour que ce soit durable, il faut le répéter plusieurs fois, il faut le faire à chaque fois en profondeur.
Plusieurs questions. Ça veut pas dire qu'est-ce que
représente. Exactement. Ça veut dire que, après, ça développe plein de questions. Il faut s'approfondir. C'est très compliqué. Non, c'est même pas étudier la Torah, là. C'est réfléchir. Qu'est-ce que Dieu représente pour moi?
Pour mettre de l'eau dans ton moulin. Branche la machine à laver.
Quand tu parles de l'eau, on te dit que, Hachem a créé l'homme à partir du sable. Donc, le sable, c'est quoi? C'est des grains tout petits.
Oui.
Et, à la fin de son parcours, il redevient donc.
Oui, plus sûr.
Il n'y a pas plus petit, plus fin qu'un grain de sable.
Oui, mais on voit qu'on.
On voit déjà la.
Oui, mais ça n'empêche pas les gens de fauter, ça. J'ai dit, bon, le jour où je vais mourir, je vais mourir. Maintenant, je suis en vie, maintenant. Je suis en forme, maintenant.
On le voit. Même pas, tu vois pas, tu vois un corps.
Non, je regarde.
Ouais, non, mais je veux dire, quand on.
Mais encore une fois, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ce que je vais expliquer, M. Pellas. Alexandre, c'est ça, c'est Alexandre, toi? Ce que je vais expliquer. Par exemple, on voit des fois des gens qui sont pas religieux. Ils ont quelqu'un de la famille qui meurt, Dieu préserve, et tu les vois pendant un mois, ils sont là, les kadish et tout, la prière, tout ça, ils sont chauds. Un mois plus tard, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont passifs, ils sont pas actifs.
Parce qu'on leur a dit
Non, parce que c'est pas un sentiment qu'ils ont généré. Il y a un événement qui s'est passé, qui leur a rappelé certaines choses, ils l'ont subi, mais c'est pas un sentiment qu'ils ont généré d'eux-mêmes. Donc ça part. Un sentiment que j'ai pas généré de moi-même, il part. Un sentiment que c'est moi qui a créé, il prend beaucoup plus de temps à partir. D'accord?
Donc, une fois que j'ai eu ce sentiment.
Attends, il y avait juste une question de monsieur Bismuth. Vous avez une question?
Oui. Là, on est en train de parler des gens de.
Quand, Serge.
Quand ils sont dans le monde.
À quoi tu réfléchis?
Il a arrêté de réfléchir.
J'ai vu Serge, il fermait les yeux, je dis hop, il entre.
Alors que la même.
Allez-y.
Mais rapidement, je me rappelle.
Je peux pas la vouloir, je sais pas ce que vous allez donner.
Voilà, là, on est en train de parler du citoyen lambda, du juif lambda qui vient, qui prie, qui est. Mais et ceux qui vivent tout le temps dans la souffrance, quelle perception ils ont de se dire ah, bien Dieu, ça y est, je tremble? Non, ils sont dans la souffrance et peut-être qu'ils vont même mourir dans la souffrance, ils vont jamais voir quelque chose de bien. J'en veux pour preuve la génération qui est morte avant celle qui est sortie d'Égypte. Ceux-là, ils sont nés dans la souffrance et ils sont morts dans la souffrance. Que tu vas leur
il y a plusieurs réponses à cette question. Bon, je ne veux pas rentrer dedans. Hein. C'est un thème. Ça, on pourrait faire plusieurs cours que sur ça. Je voulais juste vous dire une chose. C'est que Elie Wiesel a raconté dans son livre, dans ses mémoires. Il a raconté qu'après la Shoah, il était très perturbé. Il se posait la question que tout le monde se posait après la Shoah. Où était Dieu pendant la Shoah? C'est une question normale qu'on doit poser. Et il raconte dans ses mémoires qu'il a rencontré plusieurs rabbinim. Mais il a rencontré le rabbi, et quand il a rencontré le rabbi, d'accord, bon, bien sûr, c'est ce que je vous raconte, quand il a rencontré le rabbi, il dit que là, c'est pas qu'il a trouvé une réponse, mais ça a calmé son esprit. Pourquoi? Quand il est venu voir le rabbi, il a posé la question qu'il a posée à tous les grands rabbinim, où était Dieu pendant la Shoah? Bon, tout le monde lui a répondu, il faut savoir que c'est les épreuves, faut tenir. Non. Le rabbi lui a pas répondu ça. Le rabbi lui a répondu où Dieu n'était pas pendant la Shoah. Sous-entendu, c'était tellement réussi leur projet, et ça s'est passé tellement vite, parce que pour ceux qui apprennent l'histoire maintenant, ça s'est passé tellement vite et de manière tellement méthodique comme ça, etc., que quand on analyse l'histoire, on a du mal à comprendre comment ça puisse passer et comment le monde entier a été aveuglé. Et donc, le rabbi lui a répondu, vous me demandez où Dieu était pendant la Shoah? Moi, je vous demande où Dieu n'était pas pendant la Shoah. Il était partout. Alors, vous allez me dire, simplifie la question. Oui, simplifie la question, mais en tout cas, ça répondait à la question où Dieu était. Il était là. Et ça, en vérité, c'est la question de Moshe Rabbeinu, à la fin de la Parasha Shemot. Que quand, comme là-bas il dit le Midrash, que quand Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit c'est quoi ton nom? Qu'est-ce qu'il a répondu à Kadosh Baruch Hu? Il a dit Eke Asher Eke. Je serai celui que je serai. Qu'est-ce qu'il dit là-bas Rashi? Rashi dit mon nom je peux pas te le donner. Tu veux savoir mon nom? Je peux pas te le donner. Mais une chose je peux te dire, c'est que dans cet exil et dans tous les exils qu'il y aura, c'est moi qui serai derrière. Et je serai avec vous quand ça se passera. Exactement cette réponse-là. Donc ça, c'est un peu pour répondre à votre question. Ça veut dire que dans la souffrance, bien sûr qu'on voit Kadosh Baruch Hu, celui qui est dans la souffrance, au contraire, il se sent poursuivi par Dieu. Un des grands arguments classiques de ceux qui sont dans la souffrance, il dit, mais qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il me lâche pas? Parce qu'il comprend qu'il y a un problème, c'est pas normal. Il comprend que Dieu ne le lâche pas. Il dit, mais pourquoi il m'embête? Qu'est-ce qu'il me veut?
Et comment tu veux les négocier comme ça?
J'ai pas parlé d'amour encore là.
Non mais d'accord, mais dans ces conditions-là, comment tu peux apprendre à l'aimer?
Oui, c'est vrai que c'est plus compliqué.
Le rabbi l'a dit, dans tous les cas.
Tu as raison, qui a dit qu'on arrive? Il faut essayer.
Oui.
Pour répondre à la question d'Abraham tout à l'heure, l'Admor Hazaken dit que nous, notre but est d'essayer d'aimer Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on va réussir concrètement? On peut réussir, on a en nous les outils pour réussir. Est-ce qu'on va réussir ou est-ce qu'on va pas réussir? On sait pas. Il y a peut-être beaucoup de gens qui réussissent pas, mais le fait même d'essayer d'aider à Kadosh Baruch Hu, c'est déjà la mitzvah. Parce que je réponds à la question de seconde. La mitzvah, c'est pas d'aimer Dieu. C'est d'essayer d'aimer Dieu. Quand tu essayes d'aimer Dieu, c'est-à-dire quand tu t'arrêtes et tu essayes de réfléchir, t'as déjà fait la mitzvah d'aimer Dieu. Parce qu'il n'y a pas de mitzvah d'aimer. La mitzvah, c'est d'essayer d'aimer. Ça veut dire que dit la Dorazaka dans le Tania, dans le chapitre là-bas 29, il dit que même si t'as une personne, toute sa vie, il a essayé d'aimer Dieu, il a jamais réussi. Et ben, toute sa vie, il a fait la mitzvah d'aimer Dieu. Parce qu'il a essayé. La mitzvah, c'est pas d'aimer, c'est d'essayer d'aimer.
Là, tu parles des personnes qui sont dans la souffrance.
Faut remettre en perspective,
ouais. Là, tu vas, ils vont pas avoir de la crainte. Presque de la haine. Enfin, je sais.
Non, pas de la haine, de la révolte.
Écoute, ceux qui sont dans les épreuves, ils ont des forces spéciales que Dieu leur a données pour ça, que Dieu ne nous fasse pas jamais passer par là. Laissez-les tranquilles avec leurs épreuves et leurs questions, nous on va s'occuper de nos problèmes.
Quel est le degré dans l'amour de Dieu?
Bien sûr, c'est sans cesse.
La réflexion qui amène de
mais bien sûr.
À avoir cet amour, c'est toujours la même.
Ah, pas du tout. Parce que... Mais non, non, au contraire. Parce que là, quand il dit ici maramique, approfondir, quand il parle ici d'approfondir, plus tu approfondis, et plus tu découvres de nouveaux détails. Plus tu découvres des nouveaux détails, des nouveaux aspects, des nouveaux éléments, et plus tu es ébloui, et plus tu te sens petit. C'est un travail d'une vie entière, et ça ne s'arrêtera jamais. Plus, ça ne s'arrête jamais.
Mais tu approfondis comment? Approfondir,
il faut avoir... Avec la Torah. Il
n'y a pas besoin d'avoir des arguments. Je répète, encore une fois. Bien sûr que je peux étudier la Torah, mais pour ça, il n'y a même pas besoin d'étudier la Torah. Il suffit d'analyser ma vie. D'analyser ce qui se passe autour de moi. Il suffit simplement d'analyser et de réfléchir. De prendre du temps pour faire ce qu'on appelle itbonenut. Dans la chassidut breslaï, on parle beaucoup de itbonenut avec un dalet. Là, je parle de itbonenut, réflexion. Pas du tout. On voit que une des grandes sources des gens qui font teshuva, c'est quoi? C'est le questionnement. La réflexion. Il voit qu'il y a remise en question. Il réfléchit, il voit qu'il y a un problème. Il sent qu'il y a un problème.
On a parlé de déclic la dernière fois, pour le.
Bien sûr, oui. C'est pas lié à l'étude. Vous avez vraiment, remarqué, il a pas du tout parlé d'étude ici. Il y a l'étude après, il y a des sujets, après il nous donnera des sujets clés qu'on peut étudier si on voit que ça passe pas. D'accord? Il y a des sujets, c'est pas le problème ça. Si vous voulez des sujets chocs, il y en aura des sujets chocs. Mais on rentre pas dedans. Sans rentrer dedans, il suffit d'analyser ma propre vie. Déjà, c'est déjà suffisant. On va lire encore quelques lignes, on a déjà dépassé, on va s'arrêter avec là pour aujourd'hui. Donc je lis encore quelques lignes. Alors, Nolda venit orera midat ira taromemut bemocho ou marshavto, que lorsque la personne va réfléchir comment Akadosh Baruch Hu est grand, comment Akadosh Baruch Hu est énorme, comment Akadosh Baruch Hu est présent dans chaque détail de ma vie, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, il va générer dans son cerveau, pour l'instant c'est que dans le cerveau, on n'est pas passé au cœur, il va générer dans son cerveau un sentiment de, il va se sentir tout petit, l'ira d'avoir peur, ou les hit boshesh et d'avoir honte. Migdoulato hit barrer devant la grandeur de Dieu. C'est pas une peur que j'ai peur qui va me punir. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est une peur que je me sens petit devant la personne. Comme quand je suis devant un tzaddik, parce que les tzaddikim ressemblent à Kadosh Baruch Hu. Je me sens tout petit devant le tzaddik, je me sens un microbe et j'ai honte de mes avérotes. Pourquoi quand je suis devant un tzaddik, j'ai honte de mes avérotes? Pourquoi quand je suis chez moi, j'ai pas honte de mes avérotes? Parce que quand je suis devant le tzaddik, je me sens tellement petit que je me dis comment, parce que je voulais le faire, je l'ai fait. Mais tu sens comment t'es tout petit? Comment tu peux faire des bêtises comme ça? À ce moment-là, tu te sens petit. Donc, oulit, boshesh, mikdou, latoit, barer, en la tsav et tachlit, d'avoir honte de se sentir petit devant la grandeur de Dieu. La grandeur qui est infinie, ou pachad hachem belibo, et ça, progressivement, ça pourra amener la peur de Dieu dans son cœur. Mais là, je m'arrête là pour aujourd'hui. C'est le preview de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va expliquer comment du cerveau, ça passe au cœur. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est complètement un autre sujet. C'est parce que très souvent, ça nous arrive, ça. Dans le cerveau, on a bien compris. Par exemple, imaginez-vous quelqu'un qui s'énerve. Un coquin qui est coléreux. On va lui expliquer que la colère, c'est pas bien, que ça détruit son couple, que ça détruit sa famille. Et il a compris, il a ressenti dans son cerveau qu'il y a un problème, il a kiffé, il a tout compris. Et hop, dès qu'il arrive dans le truc,
il a du mal à faire.
Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas réussi à transférer ce qu'il avait dans la tête, dans son cœur. Puisqu'on, actuellement, dans les parashas, on parle beaucoup de paro, on dit que paro, c'est quoi? Paro, c'est l'exil de la gorge. C'est quoi la gorge? C'est que paro, son rôle, c'est quoi? C'est de te bloquer à la gorge. Paro, c'est les mêmes lettres que Aoref, la nuque. C'est quoi la nuque? Ça veut dire que le rôle de paro, c'est d'empêcher, on expliquera la semaine prochaine, le picabala et tout, d'empêcher un sentiment et une conclusion intellectuelle, d'accord? De continuer dans sa direction naturelle qui est les sentiments. Donc voilà. Donc, je veux résumer juste en deux mots ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Ce qu'on a expliqué, c'est que de manière générale, il y a 10 sphirotes dans la création du monde. Ces 10 sphirotes, on les retrouve chez chacun de nous et dans notre neshama. C'est la structure générale. Ces 10 sphirotes sont composées, on a dit, de deux groupes. Un groupe intellectuel, un groupe sentimental. Le groupe intellectuel est composé de trois mamans. Le groupe sentimental est composé de
sept doubles.
Pour l'instant, on n'a fait que commencer à développer les trois mamans. Dans les trois mamans, on a développé que les deux premières phases. deux premières phases qui sont Chochma, Bina. Chochma, c'est le flash. Bina, c'est quoi? Développement. On a fait que ça. Donc, on a donné un exemple concret. Je réfléchis, par exemple, à la grandeur de Dieu. Donc, j'ai un flash qui me montre la grandeur de Dieu. Et je réfléchis dans mon cerveau. Je développe, je développe, je développe. Et qu'à un moment, à ce moment, je vais générer un sentiment intellectuel. Maintenant, après, il nous manque la suite. Il nous manque la troisième phase de l'intellect, Da'at, qui va être le rôle, son rôle, ça va être de transférer, de faire passer du cerveau au cœur. Et après, dans le cœur, quelles sont les sept facettes du cœur? Comment ça se passe? Dans quel ordre? Est-ce que d'abord la bonté, la rigueur, droite, gauche, milieu, comment ça se passe? Et vous allez voir qu'il y a sept facettes qui sont très claires et qu'on retrouve vraiment dans la vie de tous les jours, comme la colère, l'humilité, la bonté, la rigueur, l'harmonie, l'envie de gagner, vous savez, l'envie, le challenge, l'envie de répondre à un challenge, la capacité de communiquer, l'envie de régner, d'accord? Toutes ces choses-là, c'est des sentiments primaires qu'il y a chez l'homme, qui sont déjà là, seulement le cerveau va réussir à les maîtriser, comme on va expliquer.
Un sentiment vient du cerveau?
Pas du tout. Pas du tout. Un sentiment peut venir du cœur directement. Seulement quand il est généré par le cerveau, il est plus solide. Il est mieux et il est maîtrisé. Il est maîtrisé. Ça veut dire qu'on va maîtriser exactement où il peut aller ou peut pas aller. Quand c'est un sentiment qui vient directement du cœur, on maîtrise pas.
C'est une pulsion.
D'accord? Tu maîtrises, t'arrives pas à t'arrêter. Donc, une grande base du tenet, c'est que Mohar Shalit à l'élève, que le cerveau domine le cœur. C'est une notion qui reviendra plus, qui se rattache à plusieurs reprises, c'est une notion très, 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 très intéressante. Voilà.